Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une, cette fois c'est sûr, il va falloir baisser le chauffage. Le gouvernement présente aujourd'hui son plan de sobriété énergétique. Europe 1 vous en dévoile déjà les grandes lignes. État, entreprises, particuliers, tout le monde va devoir faire des efforts. On vous dit tout dans un instant. Que vont devenir les centaines de consommateurs de crack du campement sauvage de la Villette à Paris? Mise à l'abri, expulsion du pays, hospitalisation ou emprisonnement? On fait le point dans ce journal. Et puis pourquoi n'allez-vous plus au cinéma? La fréquentation s'effondre à son pire niveau depuis plus de 40 ans. Quelle piste pour s'en sortir? Élément de réponse à suivre. Le journal présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. C'est le grand jour. Après avoir demandé à tous les Français de faire des efforts, de diminuer de 10% leur consommation, le gouvernement présente cet après-midi son plan de sobriété énergétique. Un plan sur lequel l'exécutif travaille depuis 4 mois autour de 300 acteurs. Objectif, on le rappelle, éviter de manquer d'électricité ou de gaz cet hiver, même si les cuves sont pleines. Alors Europe 1 a eu accès aux grandes lignes du plan Baptiste Morin. Il concerne tout le monde. D'un État, entreprise, particulier.
Oui, l'État devra être exemplaire. Par exemple, les bureaux publics seront chauffés à 19 degrés maximum. La consommation d'eau chaude y sera rationnée. Dans leurs déplacements professionnels, les agents de l'État devront limiter la vitesse de leur véhicule de fonction à 110 km/h sur l'autoroute. Et enfin, ils sont aussi incités à faire du télétravail. Voilà comment l'État compte réduire sa consommation de 10%. Rien de contraignant en revanche pour les entreprises. Le gouvernement veut les inciter à suivre le modèle de l'État. Il est plus précis pour les établissements qui reçoivent du public. Par exemple, les stades de football ou de rugby devront être éclairés moins longtemps avant et après les matchs. Pour les particuliers, un slogan « Je baisse, j'éteins et je décale ». Ce sera la campagne du gouvernement à partir de lundi. Décaler la période de chauffe, éteindre les appareils qui ne sont pas utilisés ou qui restent en veille et baisser la température du chauffage et du chauffe-eau.
Baptiste Morin, les 19 degrés, hein, mesure phare de ce plan de sobriété la plus efficace pour faire des économies, estime Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique ce matin dans les colonnes du Parisien. À Grenoble, par exemple, cela fait 2 ans qu'on fait des économies dans le bâtiment Schneider Electric, le plus performant du monde. Reportage de notre correspondant européen, Jean-Luc Boujon.
C'est un bâtiment de 26 000 mètres carrés, aux murs dorés, aux parois vitrées, pouvant accueillir 1500 salariés. Un immeuble intelligent et vertueux qui, par exemple, régule lui-même la température intérieure et l'éclairage, explique Fabienne depuis 16 ans chez Schneider Electric.
Ça détecte les présences. S'il y a des présences, ça chauffe et puis ça s'éclaire. Et s'il n'y a pas de présence, ça s'éteint. Et pareil, on a des prises qui fonctionnent que la journée. Pour nous, c'est super parce que tant qu'on est là, on se branche. Puis voilà. Et la nuit, en fait, il n'y a pas du tout de consommation.
Un bâtiment qui produit lui-même son électricité, détaille Alexandre.
Il y a des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment D là-bas, des éoliennes aussi au niveau du parking de ce côté-là, qui alimentent une grosse partie du bâtiment.
Mais il y a encore plus fort pour Mathieu, très fier de travailler ici.
Une des améliorations qui est vraiment très impressionnante, c'est la peinture du bâtiment, qui en fait est thermochangeante, c'est-à-dire qu'elle va changer de couleur en fonction de la température qu'il fait dehors, pour refléter plus ou moins la lumière, et du coup récupérer la chaleur qu'on a du soleil, pour essayer de chauffer le moins possible en hiver. Moi je suis très fier du coup de pouvoir travailler là tous les jours. Ça montre aussi que c'est possible de allier le confort, la modernité et puis d'être respectueux de l'environnement.
Un bâtiment qui est devenu la vitrine technologique de l'entreprise et une référence mondiale en matière de performance énergétique. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
4 salariés de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, ont été placés en garde à vue à la DGSI.
Oui, hein, âgés de 31 à 35 ans, ils sont accusés d'avoir débranché la téléconduite de postes électriques lors d'une grève. Le parquet de Paris a confirmé cette information hier. Les salariés ont été suspendus. Un rassemblement à l'initiative de la CGT est prévu cet après-midi, 14h, devant le siège de RTE en banlieue parisienne pour dénoncer, je cite, des services antiterroristes utilisés pour faire taire les revendications salariales des agents.
Ils étaient jusqu'à 800 toxicomanes à s'y rendre chaque jour. Le square Forceval à Paris, le campement du crack, a été évacué hier.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place dans la soirée pour dresser le bilan. 211 contrôles effectués sur les personnes présentes dans le campement aux portes de la Villette. David Montagnier, sait-on ce que vont devenir ces 211 personnes ?
Eh bien, tout dépend de leur profil. D'abord, ceux qui risquent des poursuites pénales, mais ils ne sont pas très nombreux puisque sur les 17 interpellés, finalement, un seul a été placé en garde à vue sans aucune certitude de comparaître devant le tribunal. Ensuite, il y a ceux qui étaient en situation irrégulière, 52 étrangers au total. Ils ont été placés en centre de rétention administrative dans l'attente d'une éventuelle expulsion. Mais au-delà de ce volet sécuritaire, il y a aussi l'aspect social de cette opération. 63 personnes vulnérables vont rejoindre des centres de prise en charge, notamment pour 9 d'entre elles, 9 femmes victimes de violences conjugales qui étaient jusqu'à présent à la rue. Enfin, pour 5 toxicomanes, le préfet de police Laurent Nunez a prononcé à leur encontre une hospitalisation d'office dans un service de psychiatrie. Alors vous le voyez, dans les faits, le bilan sécuritaire est plutôt modeste, mais l'objectif initial n'était pas forcément répressif. Il s'agissait en priorité de démanteler ce campement. Gérald Darmanin a indiqué hier devant le Sénat que des centaines de policiers restaient mobilisés pour éviter précisément sa reconstitution.
Merci David Montagnier du service police-justice d'Europe 1.
Y a-t-il un avenir pour les salles de cinéma ? Plus les mois passent, Alban, moins les spectateurs sont en rendez-vous.
Le mois dernier a d'ailleurs été le plus faible en niveau fréquentation depuis 1980. Les plateformes type Netflix, Prime Video, Disney+, ne les aident pas non plus, sans compter le Covid. En fait, Margot Faudéré, les crises s'accumulent dans les salles obscures.
Seulement 105 millions de spectateurs se sont rendus dans les salles de cinéma depuis le début de l'année, un chiffre en baisse de 30% par rapport à 2019 et qui s'accompagne d'une diminution de leur chiffre d'affaires, 742 millions d'euros depuis janvier contre 1,5 milliard pour une année normale. Alors certes, il reste 3 mois avant la fin de l'année, mais on est quand même loin du compte, et ce alors même que le ticket de cinéma en France est souvent moins cher que dans d'autres pays européens, 7,07 € contre 9 € en Italie et même 12 en Allemagne. Le problème, c'est que les Français ont l'impression de payer trop cher, selon Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français.
Moins de 15% des spectateurs payent le tarif le plus cher dans un cinéma. Vous avez en France des gens qui payent le cinéma moins de 4 € la place de cinéma. Les gens ne regardent que le prix le plus cher.
À la frilosité des spectateurs s'ajoute l'envolée de la facture énergétique qui peut représenter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de certaines salles et le coût de la modernisation des projecteurs jusqu'à 50 000 euros par salle.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. La SNCF, elle, fait le plein. On vous en parlait hier, c'est ce mercredi que les réservations pour les fêtes de fin d'année ont été ouvertes. Déjà 1 300 000 tickets vendus. C'est 30% de plus que l'année dernière. Selon la SNCF, il s'est vendu entre 6h et 8h du matin, l'équivalent de 3 TGV par minute.
Vous parlez de faire le plein, Alban. Certaines stations-service connaissent des tensions d'approvisionnement, mais pas de pénurie. C'est ce qu'assure en tout cas Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
Environ 12% des stations essence seraient à sec, en particulier celle de l'enseigne Total, victime de leur succès, avec le coup de pouce de 20 centimes et surtout victime des grèves dans les raffineries. La région Hauts-de-France est la plus impactée, 30% des stations sont touchées.
À l'Assemblée, le calme est revenu dans l'hémicycle hier pour le vote sur la réforme de l'assurance chômage.
Et les députés ont voté des amendements portés par les Républicains et la majorité, amendements qui prévoient que tout salarié abandonnant son poste soit présumé démissionnaire, objectif restreindre l'accès aux indemnités chômage.
La Corée du Nord choisit l'escalade en tirant hier soir et pour la deuxième fois en 2 jours des missiles balistiques.
Des essais d'armes qu'elle qualifie de juste mesure de rétorsion contre Washington et Séoul et leurs exercices dans la région. Des tirs effectués au moment où le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunissait pour évoquer le lancement du premier missile nord-coréen qui avait survolé le Japon.
Enfin, une information qui se confirme, Alban. Le chien, oui, est bien le meilleur ami de l'homme, encore plus depuis une découverte révolutionnaire.
Et on la doit aux chercheurs de Tours qui ont trouvé un parasite bien spécial, le Neospora caninum. Il pourrait permettre de développer des traitements pour des cancers qu'on pensait jusqu'aujourd'hui incurables. Geoffrey Branger, ça pourrait à terme révolutionner la lutte contre la maladie.
Oui, l'idée, c'est d'injecter à plusieurs reprises ce parasite, ce virus inoffensif pour l'homme, directement dans une tumeur. Arthur Battistoni est doctorant à l'université de Tours et fait partie de l'équipe de chercheurs responsable de cette découverte.
La présence de ce virus dans la tumeur va permettre, dans un premier temps, de détruire les cellules tumorales et en même temps de réveiller le système immunitaire du patient qui est souvent endormi par la tumeur.
L'avantage de ce traitement, appelé par les scientifiques immunothérapie cancéreuse, c'est qu'il n'y aurait pas d'effet secondaire comme dans les traitements actuels, comme par exemple la chimiothérapie. Si aujourd'hui les tests en sont encore à leur début, les premiers résultats sont très encourageants.
Lorsque nous avons traité des souris avec ce parasite, on a pu voir en quelques semaines une inhibition du développement de la tumeur, ce qui est un résultat très prometteur pour la suite. Et nous l'espérons permettre un jour de pouvoir traiter un premier patient humain avec cette thérapie.
Oui, parce que l'objectif pour cette équipe de chercheurs, c'est de créer un traitement pour guérir tous les cancers, y compris ceux réputés incurables comme le cancer du pancréas ou encore certaines tumeurs cérébrales.
Geoffrey Branger.
Merci Alban Leprin, c'était votre journal de 5h sur Europe 1.
Il est 5h10 et on passe au journal des sports avec Johan Tritz. Bonjour.
Bonjour Ambline, bonjour à tous.
On commence avec le PSG tenu en échec à Lisbonne en Ligue des Champions, c'était hier.
Oui, dans les stadios de la Luz du Benfica, les Parisiens sont une nouvelle fois tombés sur un os. Malgré le magnifique but de Lionel Messi pour ouvrir le score, le PSG a été rejoint pour finalement faire match nul un partout. Toujours pas de victoire en terre lisboète pour les joueurs de la capitale qui restaient sur 3 défaites de suite. Mais le résultat est logique pour l'entraîneur Christophe Galtier.
On savait que Benfica allait mettre une énorme pression, qu'ils allaient vouloir contrarier nos premières ressorties de balles. Mais malgré cela, on est arrivé à le faire. Je crois que les deux équipes ont eu des temps forts très importants en ne marquant qu'un but. Alors, est-ce que c'était un match nul équitable ? Probablement par rapport aux occasions concédées des deux côtés.
Un propos recueilli par Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Un bon point pour Christophe Galtier, mais certains joueurs ont quand même des regrets. Marco Verratti déplore notamment une mauvaise décision de l'arbitre juste avant la mi-temps. Enzo Fernandez, coupable d'une méchante semelle sur le milieu parisien, aurait dû être expulsé selon l'Italien.
Je parle avec l'arbitre, ça veut dire que je comprends pour rien de foot parce qu'à le début du championnat, ils nous font des réunions pour dire si. Si on rentre comme ça, à haut de la cheville, c'est carton rouge. Il a dit qu'il n'y avait pas d'intensité. J'ai une cheville gonflée. L'arbitre, il a fait des erreurs. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai fait des erreurs. Mais je sais seulement que des fois, il s'explique un peu pour dire qu'on a raté comme on rate nous, comme on rate vous. Mais il continue à dire que c'était jaune pour lui. On ne se comprend pas avec l'arbitre.
Le PSG reste leader de son groupe H de Ligue des Champions à égalité avec Benfica. Dans l'autre rencontre de la poule, la Juventus a logiquement dominé le Maccabi Haïfa 3-1 avec un doublé du français Adrien Rabiot.
Fin des matchs de Ligue des Champions pour cette semaine. Place aux autres Coupes d'Europe ce soir.
Avec 4 équipes françaises en lice, en Ligue Europa, Rennes accueille le Dynamo Kiev, Nantes se déplace à Fribourg et Monaco affronte les Turcs de Trabzonspor ce soir. En Ligue Europa Conférence, la 3e Coupe d'Europe, Nice toujours à la recherche d'une victoire dans la compétition, ira en République tchèque pour défier le FC Slovako.
Et aujourd'hui, Johan, c'est aussi le top départ des mondiaux de judo.
Qui se déroule à Tachkent en Ouzbékistan. Pas de Teddy Riner, forfait, mais du beau monde pour les Bleus, notamment dans la catégorie féminine des moins de 48 kilos, où concourt la jeune Shirin Boukli. À 23 ans, elle vise un premier titre mondial cette semaine.
J'ai ma place, voilà, je suis numéro 1 mondial, double championne d'Europe en titre, c'est juste dingue. Mais c'est difficile encore de le réaliser et de me dire que bah, aujourd'hui je fais partie des meilleures filles de la catégorie. Voilà, moi je me mets quand même comme les autres, je pars quand même sur le fait que bah, on va aller à la bagarre. Tout le monde peut être forte ce jour-là, donc il faut faire attention à tout le monde. Mais voilà, c'est un statut qui est difficile encore à réaliser, on va dire.
Et tous doivent avoir dans un coin de leur tête les Jeux Olympiques de Paris 2024. Hier a été dévoilé le parcours du marathon. 42,195 km au départ de l'Hôtel de Ville, passage ensuite par l'Opéra, la Tour Eiffel et Versailles avant de revenir dans la capitale. Un hommage à la Marche des Femmes de 1789. Un parcours qui sera ouvert pour la première fois à 20 000 coureurs amateurs, mais surtout particulièrement exigeant, explique le président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet, qui sera d'ailleurs l'invité d'Europe 1 Sport ce soir entre 20h et 20h30.
Merci beaucoup Johan. C'était le journal des sports de Johan Tritz. 5h13, on passe aux courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud et mon pari gagnant sera le 212 First Minister. Dans cette course réservée aux poulains âgés de 2 ans qui vont tous effectuer leur premier pas sur un hippodrome, ce poulain très bien né précédé d'une flatteuse réputation. Issu du craquetalon Galiléo, actuellement le meilleur reproducteur au monde et ce depuis une décennie, et d'une poulinière américaine, Naples Bay, qui s'est illustrée à un très bon niveau, je sais que si leur progéniture répète cet après-midi ce qu'il montre le matin depuis plusieurs semaines à l'entraînement, n'allez pas chercher plus loin le gagnant de cette 2e course. Alors notez bien, pour Saint-Cloud, réunion 1 dans la 2e course, le numéro 12, First Minister.
Merci Thierry Léger, vous revenez avec vos pronostics du Quintet dans une demi-heure. 5h14, vous êtes sur Europe 1, très bon réveil. L'histoire dingue d'Anissa nous emmène dans un instant sur la planète Netflix. Un objet de la série la plus flippante du moment a été vendu à un prix exorbitant.
Dingue ! Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Merci de choisir Europe 1 et d'être avec nous dès votre réveil. Bon matin, et c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. Alors, si vous êtes en train de petit déjeuner.
Ah oui, non, là, faut arrêter.
Attendez 5 minutes.
Hein. Posez la tartine.
C'est votre histoire, Anissa. Elle concerne ce matin une série qui cartonne en ce moment sur Netflix.
Oui, si vous avez Netflix, vous n'avez pas pu passer à côté de l'événement du moment. La série numéro 1 au classement des visionnages mondiaux, Dahmer. Alors, cette série raconte l'histoire vraie du tueur en série Jeff Dahmer, le cannibale du Milwaukee. Il a été condamné en 92 à 957 ans de prison, qui correspondent à 17 fois la peine de perpétuité pour ces 17 meurtres. Voilà ce que ça donne.
C'est trop tard! Vous êtes venu trop tard!
Mangez-le.
Voilà, alors déjà on est dans l'ambiance à 5h16. Cette série a été vue plus de 22 millions de fois en une semaine seulement. C'est l'un des meilleurs démarrages de l'histoire de Netflix. Elle fascine autant qu'elle effraie, la preuve avec cette histoire dingue de ce matin. Les lunettes de Jeff Dahmer, parce qu'il avait, en plus d'être complètement barjo, il avait une tête quand même particulière avec des lunettes des années 70,
oui, très épaisses,
en fer, dorées. Eh bien les lunettes de Jeff Dahmer, le vrai, hein. Pas celle de la série. Ouais, oui. Le vrai, pas les lunettes du comédien. Eh bien, elles ont été mises en vente il y a quelques jours à 150 000 dollars.
Donc, elles n'ont pas été détruites, surtout. C'est la grande question. Et c'est très, très inquiétant, cette histoire. Parce que du coup, si elles n'ont pas été détruites, elles sortent d'où ?
Eh bien, ces lunettes, elles appartiennent à un homme, Taylor James. Mais attention, cet homme possède une collection impressionnante d'objets qui ont appartenu au tueur Jeff Dahmer. Taylor James, il est passionné de tueurs en série et d'affaires criminelles. Il est l'un des plus grands collectionneurs d'objets macabres au monde. Sur son site internet créé en 2018, ce Canadien originaire de Vancouver liste son incroyable collection d'objets ayant appartenu au plus grand serial killer de l'histoire américaine. Je suis allée sur ce site, j'en ai fait des cauchemars toute la nuit. Taylor James ne vend pas que les lunettes de Jeff Dahmer, mais aussi un dessin d'école du tueur, une lettre manuscrite du père de Jeff Dahmer pour 2 500 $, ou encore la Bible qu'il possédait en prison pour 10 000 $, mais tout ça c'est soft par rapport à ce qui arrive. Il a aussi un sinistre set de coutellerie saisi dans l'appartement où Dahmer a tué et démembré 12 de ses victimes. Mais l'élément le plus troublant de cette collection, c'est quand même un dossier de lettres que le tueur a reçu d'une fan obsédée.
En prison, oui.
La fan était une femme qui lui écrivait plusieurs lettres chaque jour, convaincue qu'elle avait un lien personnel avec le tueur cannibale. Bref, l'objet le plus cher de la collection sont donc les lunettes de vue de Jeff Dahmer. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cette vente aux enchères a beaucoup fait réagir sur Internet. Beaucoup sont choqués, notamment les familles des victimes. Pour l'instant, aucune date n'a été annoncée. Les lunettes sont juste en vente sur le site Internet de Taylor James, avec les milliers d'objets ayant appartenu à Jeff Dahmer
et aux autres.
Nombreux tueurs en série américaine.
Tout cela est pour le moins dérangeant.
C'est un homme qui fait flipper.
Un homme qu'on a envie de connaître, Taylor.
Je vous conseille, alors, allez voir la tête de James Taylor, il fait aussi peur que Jeff Dahmer.
Bon, d'accord. Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Bonne journée,
on va plus dormir pendant 4 jours. Et on vous retrouve quoi qu'il arrive, ça c'est pour les bonnes nouvelles, a priori à 5h30 pour la météo.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
5h19, très bon réveil en tout cas, à notre écoute sur Europe 1. Les titres de ce jeudi 6 octobre, Alban Le Prince.
Le gouvernement dévoile aujourd'hui son plan de sobriété énergétique. Il prévoit notamment une incitation au télétravail dans l'administration, un chèque de 100 euros pour favoriser le covoiturage ou encore une vaste campagne de communication. Le gouvernement appelle les fournisseurs d'énergie à la solidarité avec les entreprises. Aujourd'hui, 1 500 000 sociétés sont éligibles au bouclier tarifaire. Les autres se voient proposer des prix délirant selon Bercy, les mettant en danger. La grève continue dans les raffineries et les stations-service sont à sec. Environ 12% sont en difficulté selon Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui ne parle pas de pénurie mais de tension. Sur la réforme des retraites, Olivier Dussopt a reçu les partenaires sociaux. Hier, il a proposé 3 cycles de concertation de mi-octobre à mi-décembre. Calendrier trop serré, jugent les syndicats. Et puis, les jouets plus chers à Noël selon l'Institut NPD Group, 6% de plus, soit 1,80€ pour un cadeau à 30 euros.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
5h20 lors de notre coup de projecteur quotidien sur des initiatives en France. Ce matin, c'est un encouragement à aller vers une meilleure consommation du vin.
Bonjour Thomas Lemal.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Avec François-Xavier Henry, vous avez créé OE, les deux premières lettres d'œnologie. OE est une start-up lyonnaise qui propose des vins biologiques, vegan et sans pesticides. Vous êtes ingénieur des arts et métiers. Vous avez travaillé dans des grands groupes, Thomas Lemal. Comment êtes-vous tombé dans le domaine viticole et en particulier les vins 100% bio?
C'est une bonne question, merci. Alors, j'ai travaillé 6 ans chez L'Oréal, 1 an chez Danone. Et pendant mon année chez Danone, j'ai suivi un MOOC avec Ticket for Change et HEC pour devenir entrepreneur du changement. Et je crois vraiment en fait que l'entrepreneuriat, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. Et c'est ça que je voulais mettre en musique après ce MOOC. Et à ce moment-là, un peu par hasard, j'ai rencontré François-Xavier qui, lui, travaillait dans le vin. Il avait remonté, si je puis dire, un domaine viticole dans le Jura pendant 5 ans. Et une fois qu'il avait fini sa mission, il voulait monter un projet dans le vin pour contribuer à un changement dans la viticulture, parce qu'il avait des personnes qui partaient dans les vignes avec des masques à gaz et des combinaisons. Il s'est dit, il y a quand même une autre manière de produire du vin. Et donc, ensemble, on s'est associés pour lancer ce qui est devenu OE.
OE est donc une marque de vin bio engagée. Parlons d'abord justement de ce vin, Thomas Lemal, à consommer avec modération. Vous travaillez uniquement avec des viticulteurs dont les exploitations sont respectueuses de l'environnement. Ça, c'est la base du cahier des charges.
Oui, tous les vins OE sont bio, vegan, zéro pesticide et on travaille qu'avec des viticulteurs et viticultrices de toute la France qui vraiment sont conscients du rôle qu'ils ont au travers de la viticulture, à la fois pour produire un super bon vin, mais aussi pour mettre leurs vignes au profit de la biodiversité. Et nous, on consacre 1% de notre chiffre d'affaires pour aider nos vignerons à aller au-delà du bio au travers du programme OE pour la biodiversité. Et donc, ensemble, on va planter des haies, on va analyser les sols, planter des plantes régénératrices pour régénérer les sols si c'est nécessaire. Etc. Il y a tout un plan d'action qu'on a en place avec eux.
À l'origine, ce sont les domaines producteurs qui apparaissaient sur les bouteilles. Désormais, vous êtes une marque à part entière. C'est important de le dire, pour si on vous cherche.
Oui, tout à fait. Donc, sur les vins, sont marqués OE. Et pour autant, on est très transparent sur les vignerons. Bah, cette semaine, on vient de lancer un QR code qu'on a sur la bouteille. Et on peut scanner la bouteille directement. Le vigneron vous parle en vous disant, bah, voilà, vous avez dans vos mains le Côte du Rhône, c'est moi, Denis, qui les produit. Voilà comment, voilà où. Et on peut visiter le domaine, visiter les vignes, etc. Donc on a cette grande transparence, cette grande simplicité avec les vignerons. Nous, on ne négocie pas les prix avec les vignerons, on a vraiment une bonne entente avec eux, on construit dans le temps long avec eux. Il y a ce côté très humain et très simple et durable dans ce qu'on fait avec les vignerons. Et on adore cette relation-là qu'on a avec eux. Ouais.
Donc on trouve des Côtes-du-Rhône, Bordeaux, du Languedoc, le vin Châteauneuf-du-Pape également. Il y a vraiment différents domaines avec lesquels vous travaillez.
Il y a une quinzaine de vins différents. On veut vraiment apporter de la simplicité. Les appellations les plus classiques, Bordeaux, Côte-du-Rhône, Languedoc, effectivement. Mmh. Et s'adresser à un peu cette jeune génération qui veut une extrême cohérence de bout en bout, à la fois avoir cette transparence envers le vigneron, à la fois être plus que bio, et puis la cohérence aussi dans la manière de construire l'entreprise. Nous, on pense que quand une entreprise est bio ou un produit est bio, bah, évidemment, il doit cocher les quelques cases du label bio, mais il y a aussi cette cohérence d'entreprise qui doit être aussi reflétée dans la manière de construire, quoi.
Cohérence de bout en bout, votre engagement dans la viticulture durable est effectivement total, Thomas Lemal, jusqu'aux bouteilles. Parlez-nous de ces bouteilles.
Alors, évidemment, tout est recyclé, recyclable, encre végétale, bouchon naturel, etc. Mais OE, on est la première marque de vin en France à avoir relancé la consigne il y a 2 ans et demi.
Oui.
La consigne, donc c'est game changer en termes d'écologie. C'est 79% de gaz à effet de serre en moins, c'est 76% d'énergie en moins. Et on voit le sujet actuel majeur de l'énergie, donc vraiment c'est une réponse à ça. La consigne, c'est 33% d'eau en moins. Donc quand on compare une bouteille qui est réemployée, issue de la consigne, avec une bouteille qui est neuve, même si elle est issue de verre recyclé, by the way, on a toujours besoin, même dans une verre issue de verre recyclé, de matière neuve, de silice neuf, de matière non renouvelable. Et un dernier point, il y a un aspect un peu plus social aussi à la consigne. Par exemple, sur la métropole de Lyon, là où nous on est, quand on met une bouteille à recycler, et donc qui est fondue dans des fours à 1500 degrés, eh bien, le recyclage coûte 5 centimes à la métropole. Et donc, il y a aussi un enjeu un peu social. Il y a vraiment énormément de bénéfices à la consigne. Un point intéressant, c'est qu'on nous a dit, il y a 2 ans et demi, on m'a dit, mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas. Et là, on voit que maintenant, d'autres acteurs s'y mettent. Et ça prouve qu'à l'époque, on était 10, maintenant on est 25 dans la boîte, mais on était 10 à l'époque. Et ça prouve que même un petit acteur peut changer la donne et montrer la voie. Donc c'est assez, je trouve, plein d'espoir pour la suite. Maintenant qu'on a la consigne, on est aussi le premier acteur qui livre des partenaires en zéro déchet. Et donc, au lieu de livrer avec des cartons, scotch, cartons imprimés, etc., eh bien, on livre dans des casiers avec une coiffe consignée. Oui. Et donc là, on part pour une palette, on évite 125 cartons, on évite 100 mètres de scotch et 50 mètres de film plastique. Et ça, multiplié par des dizaines et dizaines de palettes, ça représente vraiment un poids ou des déchets évités vraiment monumentaux, quoi.
Vous êtes toujours dans le souci de diminuer les déchets. Pour la consigne, précisément, concrètement pour les clients, donc ils achètent une bouteille OE et puis ensuite, ils la ramènent, c'est ça ?
Ils après peuvent la rapporter chez des partenaires qui jouent le jeu. Alors tout le monde n'est pas encore en mesure de faire la consigne, mais de plus en plus d'acteurs s'y mettent. Évidemment, les premiers qui ont montré la voie, c'est toutes ces épiceries, vrac, bio, zéro déchet. Et maintenant, il y a d'autres acteurs, peut-être plus grands, qui s'y mettent. Et donc, vous pouvez acheter la bouteille, consommer le vin avec vos amis, puis rapporter la bouteille. Et là, elle est stockée dans des casiers. Quand l'épicier a suffisamment de casiers plein de bouteilles vides, on a des partenaires qui viennent ramasser ces bouteilles, les laver. Et nous, on va les réembouteiller.
Oui, c'est des commerces de la région lyonnaise, hein, c'est ça ? Vous êtes dans le Rhône essentiellement ?
Toute la France. On est vraiment en toute la France. Dans toutes les régions, on voit plein d'acteurs qui veulent jouer le jeu, qui veulent montrer la voie, essuyer les plâtres et qui voient le sens à ça.
Merci beaucoup Thomas Lemal d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur de OE, cette marque de vin bio engagée, respectueuse de l'environnement et qui s'est fixée comme objectif de réduire les déchets. Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, bonne journée.
5h28, bon réveil avec Europe 1, bon jeudi matin. Nous sommes le 6 octobre au programme de la prochaine demi-heure.
C'est l'heure du Pasteur Don. L'Institut Pasteur en appelle à votre générosité pour financer sa recherche médicale. C'est l'un des fers de lance français de la recherche. Beaucoup d'avancées grâce à vos dons. C'est ce que nous détaillera le professeur Olivier Schwartz à 5h45.
Juste après, ce sera votre prescription culture. Nicolas Caro est heureux de nous présenter le nouveau roman d'Alain Mabankou. Ça s'appelle Le commerce des allongés. Nous serons également avec Marie Jiquel au théâtre dans la pièce La métamorphose des cigognes. On fait la rencontre d'un homme en plein processus de fécondation in vitro. Figurez-vous qu'il est enfermé dans une pièce face à un gobelet vide.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une, le gouvernement présente aujourd'hui son plan de sobriété énergétique pour réduire la consommation d'énergie de 10%, incitation au covoiturage, au télétravail pour les agents de l'État, jusqu'à la coupure d'eau chaude dans les bâtiments. À Lorient, la ville est déjà passée au régime strict, diminution de l'éclairage public, baisse du chauffage dans les gymnases, reportage en début de journal. C'est une information Europe 1, on en sait davantage sur le profil de la djihadiste rapatriée de Syrie lundi soir avec ses deux enfants. Il s'agit de la veuve d'un terroriste présumé, bien connu des services de police. Et puis du rap pour lutter contre l'échec scolaire, des cours de physique chimie ou d'histoire en rap. La méthode connaît un franc succès. Explication à la fin de ce journal. Journal de 5h30 présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Évitez le coup de la panne. Le gouvernement présentera cet après-midi son plan de sobriété énergétique pour passer l'hiver. On en reparlera dans un instant avec Jacques Serret. Mais les villes n'ont pas attendu pour se mettre en ordre de bataille. Économiser le gaz et l'électricité, c'est bon pour l'environnement. C'est aussi un bon moyen d'alléger la facture des communes. Exemple à Lorient, où le maire a décidé d'éteindre les lumières la nuit et de baisser le chauffage dans les gymnases. Reportage Charles Guillard.
Il va falloir se bouger un peu plus à l'échauffement pour pas avoir froid.
D'ici la fin du mois, le grand plan de résilience lancé par la mairie de Lorient va entrer en vigueur.
Comme on va courir, on va se réchauffer.
Et parmi les principales mesures, le thermostat qui va passer de 19 à 14 degrés dans les gymnases de la ville, ce qui va obliger joueurs et entraîneurs à adapter leurs séances. Baptiste est coach de basket.
On va devoir peut-être prendre des temps d'échauffement beaucoup plus longs. Après, dans le principe, c'est une idée qui est plutôt pas si mal.
Une idée qui doit surtout permettre de soulager la facture globale d'énergie amenée à doubler cet hiver par rapport à l'an dernier, avec moins de chauffage dans les équipements municipaux et l'extinction de l'éclairage public au cœur de la nuit. Lorient espère ainsi économiser jusqu'à 1,5 million d'euros. Pour Bruno Paris, l'adjoint à l'environnement, c'est aussi bon pour les finances que pour la conscience.
On sait que la France était dépendante jusqu'à présent à 17% du gaz russe, eh bien, on fait le pari à la ville de Lorient qu'on est capable de diminuer nos consommations de gaz de 17% parce que c'est un effort de guerre. Ce qu'on dépense en énergie, c'est autant de fonds perdus pour des politiques publiques qui sont importantes.
Et les près de 60 000 Lorientais ont tout à y gagner après tout puisque ce sont eux qui paient la facture finale. Lorient, Charles Guyard, Europe 1.
Montrer l'exemple, voilà qui devrait guider le discours d'Elisabeth Borne cet après-midi.
Pas moins de 9 ministres l'accompagneront au parc des expositions de la Porte de Versailles près de Paris. Plusieurs dizaines de mesures figurent au programme de ce plan de sobriété énergétique. Entreprises privées et particuliers devront faire un effort, mais l'État et les collectivités locales devront aussi apporter leur part. Jacques Serret, Elisabeth Borne va sonner la mobilisation générale.
Oui, selon ses propres mots dans le dossier de présentation de ce plan, notre continent, notre pays sont à un point de bascule. Alors Elisabeth Borne veut donner le cap cet après-midi et appeler à la mobilisation de tous, État, entreprises, ménages. Chaque geste compte, s'apprête à marteler la locataire de Matignon. Exactement le même slogan que lors de la crise du coronavirus. Pas plus de 19 degrés, ce sera la nouvelle règle pour le réglage du chauffage dans les bâtiments publics, quand les fonctionnaires devront réduire leur vitesse sur autoroute de 130 à 110 km/h pour un gain de 20% de carburant sur les trajets non urgents. Les entreprises sont-elles priées d'éteindre leurs éclairages intérieurs dès l'instant que leurs bâtiments ne sont plus occupés ? Objectif, permettre à notre pays de réduire de 10% sa consommation d'énergie d'ici à 2024. Réduire notre consommation, c'est réduire notre dépendance à la Russie, juge Elisabeth Borne. Mais ce plan de sobriété a aussi des vertus d'un point de vue économique aux yeux de la Première ministre. Il s'agit aussi d'un plan pour le pouvoir d'achat, dans la mesure où il doit permettre, selon elle, de réduire les factures des Français.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et c'est dans ce contexte de risque de blackout qu'on apprend la garde à vue de 4 salariés de RTE, le réseau de transport d'électricité. Ces employés sont soupçonnés d'avoir volontairement saboté le réseau informatique de l'entreprise. À la clé, selon un enquêteur, des coupures de courant étaient inévitables.
Et dans certaines stations-service, Christophe, c'est la ruée sur les pompes.
Et conséquence de la grève des salariés de Total, 12% des stations-service sont à sec. Situation variable, attention, d'une région à l'autre. C'est tendu dans le Nord et le Pas-de-Calais. Dans ces deux départements, les autorités interdisent désormais l'utilisation des jerrycans. Le gouvernement reconnaît des tensions, mais refuse pour l'instant de parler de pénurie.
On en sait davantage ce matin sur cette djihadiste qui est rentrée de Syrie lundi avec ses deux enfants.
Et c'est une information Europe 1. Elle a été rapatriée en raison de l'état de santé de l'un de ses deux enfants. Mais au cours de sa garde à vue, les policiers ont fait une découverte surprenante. Et c'est une information que vous nous révélez ce matin, William Molinier. Il s'agit de la veuve d'un djihadiste français bien connu des services.
Oui, cette franco-marocaine est la femme de Romain Letellier, surnommé Abou Siyad en Normandie, se convertit à l'islam originaire du Calvados et considéré comme le tout premier cyber-djihadiste français à avoir comparu devant un tribunal. C'était en 2014, il était alors l'administrateur du forum Ansar Alak, un des rares sites de propagande djihadiste accessible à l'époque en français. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme pour apologie d'actes de terrorisme. Puis il est sorti de prison après son incarcération. En 2015, il rejoint la zone irako-syrienne avec sa femme et son enfant. Romain Letellier était chargé de la propagande de Daesh sur les réseaux sociaux. Il aurait été tué par des frappes de drones américains. À son arrivée sur le sol français, sa femme a été remise entre les mains de la DGSI. En 2013, elle expliquait à nos confrères de Ouest-France qu'il n'y avait qu'un seul islam. L'islam modéré ne veut rien dire, ce sont des hérétiques. Fin de citation. Sa garde à vue peut durer jusqu'à demain soir.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. L'enquête sur la mort d'une jeune femme à Grenoble tuée accidentellement par balle après un refus d'obtempérer de son compagnon. L'homme est un Marocain de 30 ans, déjà condamné pour des tirs sur les forces de l'ordre. Et selon les policiers, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il est toujours en garde à vue.
À Marseille maintenant, une vente aux enchères bien particulière a fait un véritable carton.
Le crime ne paie pas, Alexandre, sauf dans les salles de vente. L'État a mis aux enchères les biens saisis du grand banditisme, de la montre à la voiture de luxe. Il y en avait pour tous les goûts, à condition d'avoir un compte en banque solide. Reportage au Palais du Pharo où avait lieu cette vente, Nina Pavant.
Pièces en or, sacs de luxe, Ferrari, les saisies de justice font tourner la tête des acheteurs. Sylvie a repéré quelques bijoux en or dans le catalogue. Certains appartenaient à des escrocs ou même à des narcotrafiquants. Vous, en tant qu'acheteuse, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça ne me touche pas, ça. J'achète et on verra après.
Alors, est-ce que presque ça ne leur rajouterait pas un charme ? Ça fait une petite histoire à raconter, peut-être.
Sûrement une histoire, oui, déjà là, pour moi.
54 000 pour le jeune homme.
Alexandre, lui, craque et s'offre une Rolex 54. À 54 000 euros. Première enchère pour ce jeune trentenaire.
C'est un marché qui ne perd pas du tout de valeur, donc en termes de placement, voilà, c'est une valeur refuge.
Revendre des objets saisis à des délinquants condamnés, c'est renflouer les caisses de l'État, financer la lutte contre la criminalité et même parfois indemniser les victimes de fraude, selon Nicolas Besson, représentant de l'État en charge des ventes.
Tout ça, c'est la concrétisation du travail des policiers, des juges d'instruction, des procureurs de la République sur le terrain. Partie de ces sommes leur reviennent pour améliorer leur quotidien et leurs conditions de travail.
Un dernier coup de marteau, et pour l'État, ce sont plus de 800 000 euros récoltés en une seule journée. Marseille, Nina Pavant, Europe 1.
Enfin du rap, Christophe, mais du rap pour prévenir le décrochage scolaire. C'est une méthode qui fait de plus en plus d'adeptes.
Ouais, on pourrait peut-être essayer un jour de faire un journal en rap.
C'est une idée.
C'est une idée, on verra pour la suite. En tout cas, des cours d'histoire ou de physique et chimie en rap, c'est ce que propose une application pour lutter contre le décrochage. L'idée fait le tour du web et même des salles de classe. Plusieurs rappeurs de renom sont venus donner des cours à leur façon. Louis Salé.
Il y a votre canapé, la couverture pas loin, la télécommande dégainée et donc des salles de cinéma boudées.
La déshabitude des spectateurs français, je pourrais appeler ça la flemme.
Marie Masmonteil produit des films et des séries à la télévision et au cinéma depuis 30 ans.
La flemme de se plier à des horaires, la flemme de devoir s'habiller pour sortir, la flemme de prendre sa voiture, je sais pas, de prendre le métro, enfin voilà, la flemme de bouger en fait.
Les Français ont tout de même délaissé leur nid cette année pour des films comme Top Gun, Doctor Strange ou Jurassic World. De quoi renflouer les caisses, mais certains gros poissons échappent aux salles obscures, préférant les plateformes.
Là, il y a un gros émoi dans la profession parce que le Disney de Noël va pas sortir en salle. Mais en fait, pourquoi on a fait 213 millions d'entrées en 2019 ? C'est aussi parce qu'il y avait 45 millions de films Disney. Effectivement, le mois d'août et le mois de septembre sont catastrophiques parce qu'il n'y a pas de locomotive américaine.
Dernière production disputée par les plateformes et les salles de cinéma, le film de super-héros de l'univers Marvel, Black Panther 2. Il faudra sortir les griffes pour réattirer les Français vers le grand écran.
Voilà, vous aurez reconnu la voix de Marie Jiquel. C'était pas du rap, mais c'était du cinéma.
Le rap, décidément, fait de la résistance, hein, Christophe Lamarre. Il nous échappe encore.
Il nous échappe, on pourra l'entendre dans le 7-9 de Dimitri Pavlenko. La troisième journée de la Ligue des champions de football, le PSG accroché un partout sur la pelouse de Benfica. Quatre clubs français engagés aujourd'hui en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Rennes, Monaco, Nantes et Nice.
Merci Christophe Lamarre. 5h39, très bon réveil sur Europe 1. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, c'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud que va se courir ce quintet, un handicap réservé à la jeune génération des poulains et pouliches âgés de 3 ans. Et parmi les 16 partants, il est impératif d'accorder un très large crédit au numéro 6 Chic to Chic et 14 Rosetta Stone, classés respectivement 2e et 4e d'un quintet similaire le 8 septembre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, mais aussi Saint-Sabet, le numéro 9, 7e ce jour-là, à l'issue d'une fin de course qui n'est vraiment pas passé inaperçu. Derrière ces trois priorités, je vous recommande Ashgar, le numéro 2, dont la tentative dans le quintet référence du 8 septembre à Longchamp comporte des excuses et ne reflète en aucun cas sa vraie valeur, avec Gemio, le numéro 7, déjà deux fois placé à ce niveau. Enfin, les numéros 5, Warm Breeze, 4 Grit Rotation et 12 Vega of Sands compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 14, 9, 2, 7, 5, 4 et 12.
Et ces pronostics, vous les retrouvez dès maintenant sur europe1.fr, bien sûr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Aujourd'hui, l'un des plus grands écrivains et dissidents russes. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
Le prix Nobel de littérature va être remis ce jeudi. Les plus grands noms, bien sûr, ont marqué son histoire. En 1970, l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn reçoit cette récompense suprême pour ses œuvres brillantes et engagées.
Oui, livre après livre, il déploie une écriture novatrice et critique de façon de plus en plus radicale le régime soviétique. Dans l'archipel du Goulag, il dévoile les secrets des camps soviétiques où des millions de Russes sont morts sous Staline et ses œuvres à l'époque sont interdites en URSS.
Il vit en Russie et il vit de façon extrêmement solitaire. Et il a connu exactement toute l'oppression du régime stalinien. Il a été arrêté en 1945 et condamné à la détention pour avoir dit du mal de Staline.
Solzhenitsyn ne veut pas se rendre à Stockholm pour recevoir son Nobel de peur de ne pas être autorisé à retourner en Union soviétique où il est assigné à résidence et où ses livres circulent clandestinement. C'est ce que raconte à l'époque sur Europe 1 l'un de ses traducteurs, Georges Belmont.
Mettons-nous à la place de cet homme. J'imagine que tout de même d'apprendre que son nom est acclamé ailleurs, ça peut être tout de même une forme de réconfort, mais je pense un réconfort avec pas mal d'amertume en même temps.
Et dans son discours pour le Nobel, Solzhenitsyn écrit « Quand on a épousé le monde, on ne peut plus lui échapper ».
Lors, un journaliste d'Europe 1 réussit à rencontrer Alexandre Solzhenitsyn 3 ans plus tard, en 1973, en URSS.
Oui, le rendez-vous a été pris sans précaution. Solzhenitsyn reçoit dans l'appartement de sa femme dans le centre de Moscou. Il ouvre lui-même la porte. Il est en chemise avec une grande barbe, très souriant. Le journaliste d'Europe 1, Alain Jacob, raconte la scène.
C'est un homme qui était resté très silencieux pendant des années, voyant très peu de monde et qui maintenant veut parler. Pourquoi ?
pour riposter à des mesures, à des arrestations contre des dissidents qui ont eu lieu ces derniers mois.
Solzhenitsyn est arrêté quelques mois plus tard, déchu de sa nationalité soviétique, exclu du RSS en 1974. Il se retrouve en Suisse. Seule sa stature internationale lui permet finalement d'échapper à la prison. Il avait voulu être écrivain à l'âge de 10 ans lorsqu'il a dévoré les 1500 pages de Guerre et paix de Tolstoï. Solzhenitsyn meurt en 2008 à l'âge de 89 ans.
Merci beaucoup Laure d'Autriche et à demain pour un nouveau jour où sur Europe 1.
Très bon début de journée, 5h43. Dans un instant, la campagne d'appel aux dons de l'Institut Pasteur. Pasteur don jusqu'à dimanche. Europe 1 est partenaire, il n'y a pas de petits gestes. Mi bout à bout, tout cela fait reculer la maladie. Le professeur Olivier Schwartz vous donne des exemples très concrets dans un instant.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
C'est un moment important pour faire reculer la maladie et améliorer notre santé de tous les jours. La 16e édition de Pasteur Don se tient jusqu'à ce dimanche, jusqu'à ce 9 octobre. C'est un appel aux dons pour financer la recherche contre un grand nombre de pathologies. Europe 1 est partenaire de cette opération de l'Institut Pasteur. Votre invité Alexandre, c'est le professeur Olivier Schwartz, responsable de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur.
Bonjour Olivier Schwartz.
Bonjour.
Pasteur don, c'est un moment absolument capital pour la vitalité de la recherche scientifique. Vous lancez cet appel à la générosité des Français, un appel aux dons pour faire reculer un grand nombre de maladies qui peuvent toucher chacun d'entre nous à un moment de notre vie.
Oui, tout à fait. Pour nous qui travaillons à l'Institut Pasteur, le Pasteur don est un moment unique parce que c'est une fête de la science qui nous permet de communiquer sur ce que nous avons effectué pendant l'année. Nous parlons de nos recherches, nos découvertes, nos déconvenues aussi parfois. Il faut dire que l'Institut Pasteur est un institut unique en France et même dans le monde, et je vais vous dire pourquoi. Eh bien parce que c'est un institut qui vit de la générosité du public pour un tiers. C'est un institut privé unique en France et même dans le monde, puisqu'il dispose d'un réseau d'une trentaine d'instituts dans tous les différents continents. Et nous faisons de la recherche, de la biologie. Nous sommes menés par la curiosité, comment ça se passe, comment les microbes se multiplient, comment les cellules se divisent, comment des tumeurs peuvent se former. Donc c'est de la recherche fondamentale au bénéfice de la santé humaine, puisque nous cherchons à mettre au point des tests diagnostiques, nous identifions de nouveaux microbes, de nouvelles bactéries. Quand il y a une bactérie ou un microbe bizarre qui se promène en France, eh bien, il y a de fortes chances qu'il atterrisse à l'Institut Pasteur pour être séquencé, disséqué, étudié et pour comprendre les antibiotiques, par exemple, qui vont l'empêcher de proliférer.
Alors voilà, ces dons vont donc financer le travail de 1500 chercheuses et chercheurs qui se battent tous les jours pour améliorer notre santé, pour faire reculer la maladie. Professeur Schwartz, avez-vous un exemple de percée dans vos recherches qui n'aurait sans doute pas été possible sans cette générosité du public ?
Oui, j'ai beaucoup d'exemples qui me viennent à l'esprit. On peut parler par exemple de la mise au point de ce qu'on appelle d'organoïdes cérébraux, c'est-à-dire ce sont des mini-cerveaux que l'on étudie, que l'on fait pousser en culture et qui récapitulent certaines propriétés de fonctionnement du cerveau. Et cela permet d'étudier dessus différentes choses, et bien comment les cellules peuvent mourir au cours du vieillissement, quels sont les mécanismes de neurodégénérescence, comment les contrer, les empêcher. On peut également étudier le rôle de virus dits neurotropes, c'est-à-dire des virus qui vont infecter directement les cellules du cerveau. Et donc, on s'intéresse, par exemple, à ce modèle et à d'autres modèles, des mécanismes du Covid long. Vous savez, c'est une infection qui affecte jusqu'à plus de 20% des personnes qui ont été infectées par le Covid. Et il y a certains signes, certaines fatigues. Et donc, on essaie de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents, par exemple.
Vous mettez effectivement en lumière cette année 5 axes de recherche et la lutte contre le Covid, bien naturellement, en fait partie. On voit aussi la lutte contre le vieillissement précoce, la lutte contre la maladie d'Alzheimer, sans doute, professeur Schwartz.
Oui, tout à fait. Nous avons à l'Institut Pasteur une douzaine de départements différents, dont un département de neurosciences. Et dans ce département, les mécanismes de neurodégénérescence sont étudiés. Et je vous ai parlé un instant, par exemple, des modèles de mini-organes, de mini-cerveaux en culture cellulaire. Il y a d'autres modèles et donc on peut tester des molécules, on peut regarder leur effet, on peut essayer de comprendre encore une fois ce vieillissement pour empêcher cette neurodégénérescence.
La lutte contre les virus et les moustiques, un vecteur de ces virus, on voit qu'à La Réunion, par exemple, la dengue est en train de devenir endémique, elle n'est plus saisonnière, elle s'installe.
On a les moyens d'étudier les insectes et de regarder comment ceux-ci peuvent être susceptibles à l'infection par certains virus. On parle des arbovirus, ce sont les virus qui sont portés par les insectes. Il y a la dengue, il y a chikungunya, il y a Zika. Et donc, savez-vous qu'il y a plus de 3500 espèces de moustiques sur la planète? Il n'y a que 15% d'entre eux qui sont capables de piquer l'homme. Et quand ils piquent l'homme, ils peuvent, dans certains cas, comme vous l'avez rappelé, transmettre des virus tels que la dengue, qui sont en recrudescence d'ailleurs. Il y a des changements climatiques, comme vous savez, sur la planète, et on retrouve les moustiques même dans le sud de la France maintenant. Donc on peut s'attendre à une recrudescence dans les années à venir de maladies transmises par les insectes, dont la maladie de la dengue.
Quelque chose que l'on sait peut-être moins, professeur Schwartz, vous recherchez également des solutions contre la surdité.
Oui. On parlait de l'étude de la neurodégénérescence, donc notre département de neurosciences s'adosse à un centre de l'audition qui est localisé près de Bastille d'ailleurs, et c'est une approche très originale et multidisciplinaire puisqu'il y a de la recherche scientifique pour comprendre les mécanismes de surdité. Qu'est-ce qui se passe au cours du vieillissement? Il y a également des causes génétiques. Certaines maladies génétiques sont accompagnées de pertes d'audition. Et nous cherchons maintenant à faire des essais cliniques avec un produit, un vecteur de thérapie génique qui a montré son efficacité dans un modèle animal et qui peut réaméliorer l'audition pour les personnes qui sont vraiment atteintes de ce déficit génétique. Je voulais juste préciser que les essais cliniques n'ont pas encore commencé chez l'homme, mais c'est exactement là notre force, c'est d'aller de la compréhension des mécanismes normaux, de la compréhension de ce qui se passe au cours des maladies, et ensuite de comment essayer de les contrecarrer.
Il n'y a pas de petits dons, Olivier Schwartz. On rappelle les différentes façons de faire un don à l'Institut Pasteur, des dons qui bénéficient d'une déduction fiscale. On dépense seulement le tiers de ce que l'on donne. 36-20, on dit Pasteur don. SMS, on envoie don au 92-112. Ça, c'est pour faire un don de 20 euros. Et puis, on peut se rendre également sur pasteurdon.fr. Voilà pour cet appel essentiel à votre générosité pour faire avancer la recherche contre un grand nombre de maladies qui peuvent vous toucher, vous ou vos proches. Appel au don en partenariat avec Europe 1. Merci, professeur Olivier Schwartz, responsable de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Merci à vous.
Merci à vous, Alexandre, pour votre intérêt et votre soutien.
Europe Matin.
Il est 5h51, les titres, Alban Le Prince.
Baisser le chauffage à 19 degrés, c'est à partir d'aujourd'hui. Le gouvernement présente son plan de sobriété énergétique. Monde du sport, du travail, les administrations, les commerces et les particuliers, tout le monde est concerné. 211 contrôles hier lors du démantèlement du camp du crack de la Porte de la Villette à Paris. 52 personnes étaient en situation irrégulière. 39 ont été interpellées, dont 17 qui étaient particulièrement recherchées. Les députés ont adopté un amendement de la réforme de la assurance chômage hier, prévoyant que tout salarié qui abandonne son poste soit présumé démissionnaire. En Ukraine, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique attendu à Kiev aujourd'hui. Objectif, mettre en place une zone de sécurité autour de la centrale de Zaporijjia, alors que Moscou vient de se l'approprier. Puis pour les vacances de la Toussaint, vous êtes nombreux à privilégier la Bretagne. Selon une étude à Britel, le Var et la Charente-Maritime sont aussi en bonne place.
Europe Matin.
5h52, merci d'écouter Europe 1 pour commencer votre journée de jeudi. Le meilleur médicament, tiens, à consommer sans modération, c'est votre prescription culture.
On va retrouver Marie Jiquel dans un instant, elle qui nous emmène au théâtre.
Mais d'abord le conseil lecture de Nicolas Caro, bonjour.
Bonjour Blaine, bonjour Alexandre.
Nicolas, ce matin vous nous parlez du nouveau roman d'Alain Mabankou.
Mabankou, le retour, c'est toujours un bonheur. Alain Mabankou, je rappelle ses mémoires de Porc-Épic, Black Bazar. Un bonheur parce qu'on retrouve toujours sa voix dans ses romans. Un mélange de drôlerie, de poésie, de légèreté, de profondeur. Alors, bon, légèreté et drôlerie avec le titre et le pitch du nouveau roman. On pourrait se demander, ça s'appelle Le commerce des allongés au seuil. Regardez la couverture, on voit un homme dans un costume coloré, il fait nuit. Mais surtout, il est manifestement dans un cimetière et une tombe est ouverte juste à côté de lui. Et il lévite.
Bon, faut-il en déduire que c'est un fantôme ?
Absolument. Il s'appelle Liwa Ekimakingai. On est à Pointe-Noire, au Congo, comme souvent avec Mabankou. Liwa est mort, il est au cimetière du Frère Lachaise, mais il se réveille, à moins qu'il soit en train de rêver. Toujours est-il qu'il vole et qu'il est habillé avec un pantalon patte d'ef violet et des chaussures salamander rouges avec semelles compensées. Quelle allure! Alors c'est un peu bizarre, le monde lui apparaît sans dessus-dessous, c'est-à-dire que le ciel est en bas, le sol en haut. Mais enfin, on s'habitue à tout. Premier objectif pour Liwa Ekimakingai, retourner chez lui, enfin chez sa grand-mère, Malembe. C'est elle qui l'a élevée. Elle est connue pour avoir réussi à obtenir une maison à elle sans l'aide des hommes. Elle habite du côté de la rue du Joli Soir et le quartier des 300. Mais quand il arrive enfin, d'abord il est mal reçu. Certains crient « au secours !» et d'autres le chassent tout simplement. Il n'est pas le bienvenu en tant que fantôme. Faut dire qu'il n'est pas dans le bon timing. Ses propres funérailles vont avoir lieu. Il est en train d'y assister comme Tom Sawyer. Ça tombe bien, il était fan de ce roman, sauf que pour Tom, c'était un malentendu. Là, c'est clair, il est mort. Et on revit avec lui ces dernières heures, on apprend à connaître sa vie aussi. Il était cuisinier pour le Victory Palace à Pointe-Noire.
Bah alors Nicolas, c'est un conte en fait.
Des contes même, on sent beaucoup d'influence, mais c'est aussi une déambulation dans Pointe-Noire, une manière de parler du Congo d'aujourd'hui. On visite les quartiers riches, pauvres, on rencontre une kyrielle de personnages incroyables. C'est souvent drôle, parfois plus politique ou social, mais sans le dire, sans le souligner, léger et profond, je vous disais.
Léger et profond, le commerce des allongés par Alain Mabankou. Merci beaucoup Nicolas. On part au théâtre à présent avec Marie Jiquel. Bonjour.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour
Marie.
À tous.
Bonjour Marie. Alors la pièce que vous nous présentez ce matin, elle met en scène un personnage seul sur scène et qui se pose cette question vitale. À quoi pense un homme en plein don de sperme? C'est une pièce, Marie, que vous avez beaucoup aimée.
Ça s'appelle « La métamorphose des cigognes » et cela se joue en ce moment au Théâtre de la Pépinière à Paris, puis en région. Beaucoup de succès pour cette pièce, récompensée par un Molière cette année.
Oui, on pourrait aussi appeler ce spectacle « La solitude d'un homme face au gobelet ». Alors, vous l'avez compris, Marc, le personnage principal, est en plein processus de fécondation in vitro et donc il est enfermé dans cette salle d'hôpital. Ses pensées galopent face à la panique du gobelet qu'il faut remplir.
On va mettre mon nom sur ce gobelet pour pas que vous le confondiez avec celui d'un autre. Monsieur Arnaud, c'est pas une soirée étudiante.
Alors, vous allez me dire, ça sent le vécu. Et effectivement, Marc Arnaud, l'auteur et le comédien, a eu sa première fille par FIV et cette expérience inspirante, eh bien, il en a fait ce spectacle humoristique mais aussi pédagogique.
Il y a un truc qui moi me plaisait beaucoup, c'était, qui peut être un peu cathartique, c'est le rapport avec les médecins. C'est-à-dire que souvent on se retrouve face à un médecin qui sait ou qui du moins est censé savoir. Et je ne sais pas vous, mais alors moi j'ai l'impression d'avoir 5 ans et demi. Et ça me faisait rire et j'avais envie de le partager. Quoi.
Alors il n'y a pas de décor hein. Sur scène, un tabouret, un gobelet évidemment et une dizaine de personnages, tous incarnés par Marc Arnaud, qui s'adresse parfois au public avec une pointe d'espièglerie.
Non, bon, en fait ce que j'aime bien, c'est comme je dis aux spectateurs assez rapidement que je suis devant eux pour éjaculer dans un gobelet pour faire un enfant par fécondation in vitro, je sens une petite pointe de stress se propager dans le public, ce qui n'est pas désagréable. Je sens aussi que la question qui taraude un peu les esprits, c'est comment va-t-il nous le représenter? Que va-t-il nous faire? Est-ce qu'on va assister à une perf? Eh bien non, vous entendez ce son, c'est un sachet de... Voilà, de confettis dorés.
Des paillettes pour représenter le sperme. Elle est là, notre caution poétique. Alors, il y a aussi des répliques qui fusent et des rires toutes les 20 secondes. C'est presque du one-man show. Une heure de sketch, j'allais dire, jouissif.
Jouissif donc,
forcément.
Et on a hâte d'y aller. Oui, le mot est bien trouvé. Ça s'appelle La métamorphose des cigognes 2 et avec Marc Arnaud. C'est tous les lundis à 19h au Théâtre de la Pépinière à Paris jusqu'au 26 décembre avec quelques dates en province. Merci beaucoup. Coucou Marie Jiquel. Dans 3 minutes, il sera 6h. La météo à suivre, le journal de Romain Oquet et à 6h40, votre interview éco, Alexandre.
Oui, ce matin, on vous emmène au salon Paris pour l'emploi qui fait son grand retour. C'est la première édition post-Covid qui ouvre ses portes ce matin à Paris. 10 000 offres d'emploi disponibles, pas moins. On sera avec Michel Lefebvre, le commissaire de ce salon à 6h40.
Au menu également le pressing, 3 articles repérés dans les journaux ce matin.
Et à 6h20, votre partition, Ombline.
Ou comment un groupe britannique est parti à la conquête d'une nouvelle génération de fans il y a 22 ans. Car depuis le 6 octobre 2000, certains morceaux des Who sont indissociables de la série à succès CSI, Les Experts. avec Babar Riley, c'était CSI Manhattan, la partition dans 20 minutes.
Il est 6h sur Europe 1.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Vous, moi, les entreprises, les collectivités, on est tous concernés par le plan de sobriété énergétique. Le gouvernement le présente cet après-midi. Europe 1 a eu accès aux grandes lignes du projet. Pourquoi les Français désertent-ils le cinéma? Depuis la pandémie de Covid, les salles se vident. Moins 30% de fréquentation depuis le début de l'année. Et puis le PSG n'a pas brillé dans le Stade de la Lumière à Lisbonne. En Ligue des Champions, le club parisien a quitté le Benfica sur un match nul. Le journal de 6h présenté par Roman Hoquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Mobilisation générale, voilà le titre du plan de sobriété énergétique du gouvernement présenté cet après-midi. Le message est clair, pour réduire notre consommation de 10%, tout le monde va devoir s'y mettre.
Europe 1 a donc consulté le document et nous vous le révélons ce matin, les points clés qui concernent les particuliers, les entreprises, mais aussi l'État.
Oui, et pas qu'un peu d'ailleurs, plus d'eau chaude dans les bâtiments, limitation de la vitesse sur autoroute pour les véhicules de service. Alexandre Chauveau, la fonction publique va donc jouer les bons élèves.
Oui, avec des mesures symboliques comme la limitation de la température à 18 degrés dans les établissements publics ou l'incitation au télétravail pour les fonctionnaires. Le tout pour permettre des économies de chauffage en fermant certains ministères lorsque c'est possible. L'objectif, c'est de sonner la mobilisation générale et de montrer que l'État est le premier concerné. Chacun prend sa part selon ses moyens et ses capacités, explique Elisabeth Borne, la première ministre qui parle de mesures clés pour passer l'hiver. Elles sont notre rempart contre des mesures plus contraignantes, dit-elle. L'exécutif défend un plan qui vise à rendre la France plus souveraine grâce à la réduction de la dépendance au gaz russe, mais aussi le pouvoir d'achat des Français avec la baisse attendue du montant des factures. Enfin, le gouvernement met en avant un plan écologique jugé indispensable pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, pas plus de 18 degrés, donc ce sera la règle dans la fonction publique en cas de tension sur le réseau. Et pour éviter de grelotter dans son bureau, le département de la Mayenne a une idée plutôt originale, instaurer une journée du pullover. Oui, Alexandre, c'est très sérieux.
Mais je vous écoute sérieusement.
On va comprendre le principe tout de suite avec le président du département, Olivier Richefou.
Il y a 53 mesures, hein, comme le numéro de notre département. Celle qui concerne la baisse des températures, c'est d'abord d'appliquer la règle de 19 degrés dans tous les bâtiments. Et puis cette idée de considérer que le week-end, comme nous arrêtons le chauffage, bien sûr, le week-end, eh bien, dès le vendredi, nous anticiperons cet arrêt du chauffage en baissant déjà la température à 17 ou 18 degrés selon les conditions atmosphériques. Et puis symboliquement, on a voulu appeler cette journée la journée du pullover parce qu'on mettra sans doute un pullover un peu plus chaud. À l'image du Friday Wear qui existait à une époque où on pouvait arriver en tenue décontractée le vendredi au travail, et bien là on arrivera au travail le vendredi avec un pullover pour supporter cette fraîcheur un peu plus importante.
Olivier Richefou, président du département de la Mayenne, il répondait aux questions de Guillaume Dominguez pour Europe 1. Journée du pullover, c'est demain, donc Alexandre. Il sera bientôt cette journée du pullover sublimée avec l'arrivée des pulls de Noël. C'est bientôt la saison.
Voilà une magnifique tradition qui va être reboostée du coup, effectivement. En tout cas, vous l'aurez compris, l'hiver approche. Voilà peut-être un lieu que vous aurez plaisir à retrouver, le cinéma.
Et oui, les salles obscures qui malheureusement sont tout simplement désertées le mois dernier. 7 millions de spectateurs, le plus mauvais résultat depuis 1980, sans parler de l'année 2020, bien sûr, celle de la pandémie. Ajoutez à cela le prix du billet, deux fois plus cher qu'un abonnement à une plateforme de streaming. Un cocktail désastreux pour la fréquentation de nos cinémas, comme le Majestic Passy à Paris, où s'est rendue Clotilde Dumay pour Europe 1.
Devant ce cinéma du 16e arrondissement, François lit un peu hésitant le résumé des films à l'affiche. Il ne vient pas souvent.
Je suis un peu flemmard, je regarde pas mal de films en VOD à la maison.
Les plateformes de streaming, c'est aussi le plan B d'Alexandre, surtout vu le prix d'une place de cinéma.
À côté de chez moi, c'est 15 euros la place, donc si je suis pas sûr que ça va être vraiment un film qui vaut le coup d'être vu au cinéma, je vais avoir tendance à attendre de le voir en VOD ou autre.
Et des films qui valent le coup, il y en a assez peu d'après Michel.
J'adore le cinéma, mais en réalité, il y a peu de films qui m'intéressent, qui me donnent envie d'aller les voir.
Autant de raisons qui font que la fréquentation des salles de cinéma reste inférieure à la période pré-Covid, moins 15 à moins 20% pour les 5 établissements parisiens détenus par Sophie Dulac.
Il ne faut pas oublier que quand on a réouvert aussi, les distributeurs n'ont pas vraiment osé mettre de films porteurs. Donc à part quelques cinéphiles encore seniors, je dirais, ou en tout cas un public de très gros blockbusters, les gens n'ont plus envie d'y aller. Voilà, il y a une vraie cassure entre le cinéma et son public.
Et Sophie Dulac redoute l'arrivée de l'hiver et le plan de sobriété énergétique qui pourrait dissuader dissuader certains spectateurs de venir dans des salles trop peu chauffées.
Le reportage de Clotilde Dumais, l'industrie du film qui va bientôt devoir estimer aussi son bilan carbone. À partir de janvier 2024, ce sera même la condition pour pouvoir toucher des aides publiques, annonce du Centre national du cinéma hier.
Europe 1, 6h04, c'est une photo de famille qui sera scrutée de près par le Kremlin. Les dirigeants de 44 pays européens se retrouvent à Prague.
Oui, première réunion de la communauté politique européenne à l'initiative de la France. Kiev fait partie des invités. Une démonstration de solidarité face à l'épreuve de la guerre. Et si l'Ukraine annonce regagner du terrain, sur le front, le conflit s'éternise. Plus de 100 000 Ukrainiens sont réfugiés en France.
Oui, ce sont des femmes, des enfants qui sont accueillis maintenant depuis des mois dans des familles et qui vont justement recevoir une aide de l'État.
Oui, 150 euros par mois, c'est l'indemnité annoncée par Elisabeth Borne hier. 14 000 foyers seraient concernés, ceux qui hébergent des Ukrainiens depuis au moins 3 mois. C'est le cas de Camille qui travaille dans une blanchisserie. Elle a ouvert sa porte à une mère et ses deux filles.
Ça me fait un peu bien rire, quoi, parce que 6 mois après, je suis sûre que les démarches vont être compliquées, qu'il manquera à chaque fois un papier ou un truc comme ça. J'y crois pas trop, en fait. Bon, après, c'est sûr qu'on va pas cracher dessus, hein. Ça aidera aussi, bien sûr. Le dimanche, en général, j'emmène la plus petite des deux gamines que j'ai à la maison, je l'emmène au McDo. Et ben voilà, ça lui payera un McDo et ça va faire un petit plaisir que je vais leur donner à eux. Surtout que là, une femme et deux enfants, tout ce qui est électricité, gaz, eau, tout ça, ça, bien sûr, ça double, hein, ce qu'ils auraient dû faire. C'est pas de fixer un montant comme ça. C'est de regarder au nombre de personnes qui est accueillie. Parce que vous hébergez une personne. Ok, bien sûr, 150 euros, ça va faire du bien. Mais moi, par exemple, j'en ai 3. C'est pas la même chose. C'est pas le même montant qu'on dépense en électricité, en eau, en gaz, voilà.
Et le témoignage de Camille, qui accueille une famille ukrainienne, répondait à Alexandra Gégy pour Europe 1.
L'Ukraine qui fait aussi désormais partie des pays candidats pour accueillir la Coupe du Monde de football en 2030. Une candidature commune avec l'Espagne et le Portugal.
Le Portugal et Lisbonne, Roman, où l'on part tout de suite pour votre actualité sport.
Et oui, hier soir, le Benfica a accroché le PSG en Ligue des Champions. Un partout grâce à un but de Lionel Messi côté parisien. Le club malmené à la première mi-temps a tout de même tenu le choc. Cyril de la Morinerie, vous avez suivi la rencontre dans le stade de la Luz à Lisbonne, où les supporters portugais jubilaient, hein, Cyril.
Oui, à la fin du match, c'était une standing ovation. 65 000 supporters du Benfica debout qui félicitent leurs joueurs, car hier soir, Paris a été secoué, en particulier en première période. Sans son gardien, le PSG aurait sans doute perdu. L'Italien Donnarumma a multiplié les parades aériennes et les arrêts réflexes. Paris a d'ailleurs marqué contre le cours du jeu, une combinaison de passes entre Neymar et Mbappé, avec à la conclusion un but splendide de Lionel Messi. Quant à Kylian Mbappé, la superstar du PSG a moins brillé que d'habitude. Mais l'entraîneur parisien Christophe Galtier relativise ce premier accroc en Ligue des Champions.
On savait que Benfica allait mettre une énorme pression, qu'ils allaient vouloir contrarier nos premières ressorties de balles. Mais malgré cela, on est arrivé à le faire. Je crois que les deux équipes ont eu des temps forts très importants en ne marquant qu'un but. Alors, est-ce que c'est un match nul équitable ? Probablement par rapport aux occasions concédées des deux côtés.
Mais le club parisien reste malgré tout en tête de son groupe de Ligue des Champions et tentera de s'imposer face à ces mêmes Portugais mardi prochain au Parc des Princes. Un match retour qui s'annonce bouillant.
Cyril de la Morinerie, envoyé spécial à Lisbonne pour Europe 1.
Et place ce soir à la Ligue Europa. 3 clubs français seront sur le terrain.
Oui, Monaco face aux Turcs de Thrace dans Sport. Nantes ira à Fribourg en Allemagne. Et puis Rennes reste à la maison pour accueillir le Dynamo Kiev.
C'était le journal des sports avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Roman, ok.
Il est 6h08 et vous restez avec nous dans un instant. Le pressing, bon réveil.
Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
6h10, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Bon courage si vous êtes sur le chemin du travail. 6h10 donc, c'est pile le bon moment pour l'ouverture de votre pressing.
Trois articles repérés dans la presse ce matin et nous sommes rejoints par Johan Tritz. Qu'avez-vous lu ce matin, Johan ?
Alors j'ai lu un article dans le Huffington Post aujourd'hui avec cette question. Est-ce que c'est de gauche ou de droite ? Mais là vous allez me dire, mais de quoi il parle encore celui-là ? Eh bien, alors... c'est tout simplement un site qui a vu le jour mardi et qui cartonne. Inventé par un jeune étudiant français spécialiste du code, il permet de diviser chaque mot, nom propre ou expression en 2 catégories grâce à une intelligence artificielle qui juge si le mot tapé dans le moteur de recherche est plutôt connoté de gauche ou de droite.
On parle politique, hein, de gauche ou de droite.
Politique,
voilà,
tout à fait. Le créateur Théo de Mazure a voulu reproduire un jeu fréquent chez les jeunes politisés et surtout pour s'amuser. Au départ hyper pointilleux, Théo de Mazure a dû opter pour un modèle moins précis, victime de son buzz, car l'afflux de requêtes était trop massif. Le site a même connu de gros problèmes de connexion hier. Pour garder la première version plus sophistiquée, il aurait dû débourser des sommes folles. Aujourd'hui, c'était un peu plus aléatoire, mais toujours drôle. Alors, dans le top 10 des mots recherchés, on retrouve Emmanuel Macron à la première place, qui est de droite, juste devant Fabien Roussel, numéro 2, qui est aussi marqué de droite, plutôt étrange. Mais pour aider le site, il y a possibilité de dire si on est d'accord ou pas d'accord après la recherche avec deux petits boutons. Beaucoup tapé aussi le mot bière. Qui est inscrit
le mot bière
à droite, oui,
le
bien
mot
sûr.
Bière est inscrit à droite,
à droite.
Bon,
mais aussi
première nouvelle.
Il y a le mot sexe aussi dans le top 10.
Ah, qui, le mot sexe qui est
d'ailleurs l'un des rares mots qui est de gauche et de droite, tout comme la France, la terre, le bien ou le mal.
Comme ça, c'est pratique.
Voilà. Alors, beaucoup se sont amusés en le publiant ensuite sur les réseaux, mais moi aussi, je me suis un petit peu amusé. De mon côté, on va d'ailleurs pouvoir jouer un petit peu aux devinettes. Alors, Omblin Roche, de gauche
présente.
Ou de droite?
Ah
oui, j'ai tapé Omblin Roche.
Ah, et qu'est-ce qu'ils disent?
Ah, bah, je veux savoir.
Il y a quelque chose,
oui, bien sûr.
Y a quelque chose
alors,
qui sort.
Omblin Roche, c'est de droite, a priori.
Ah, mince, c'est ce qui sort sur le site.
Alexandre Le Maire, vous êtes de droite aussi, figurez-vous. Et moi, Johan Tritz, je suis de gauche. Voilà. A priori,
si on s'en remet au jugement d'une intelligence artificielle désormais.
On peut taper tout et n'importe quoi, des expressions. Le chat, par exemple, est de gauche. Pain au chocolat, plutôt de gauche. Chocolatine, de droite.
D'accord.
Entrecôte, par exemple, ça va faire plaisir à Fabien Roussel, est de gauche.
D'accord.
Le pressing, actuellement, eh bien, est de gauche aussi.
De gauche.
Voilà, voilà. Donc plein de petits mots
un petit peu, ouais.
Comme ça. Donc c'est bien sûr à ne pas prendre au premier degré,
non,
évidemment.
C'est pour s'amuser.
On l'aura
et
compris.
Si vous aussi, vous voulez vous amuser, c'est sur le site que j'ai sous les yeux d'ailleurs. On aurait pu s'amuser à taper quelques petits mots. C'est de gauche ou de droite, delemasure.fr. Voilà.
D'accord.
Pour l'information.
Bon, si on est en quête d'un petit passe-temps, voilà.
Ouais, pas trop, parce que c'est tellement
addictif,
présent maintenant,
ouais,
partout, addictif, que maintenant, du coup, le site bug un peu. On peut pas chercher autant de mots qu'on veut, parce que sinon, ça fait...
Non, mais j'ai bien noté que vous étiez limite en train de rallumer la guerre pain au chocolat, chocolatine. Ouais, alors, pas trop, s'il vous plaît.
Vous n'avez pas relevé, mais effectivement, ouais, tout à fait.
Bon, on plaide votre sélection ce matin.
Alors, si je vous dis Ziggy de gauche, non.
Je vais taper.
Si je vous dis Ziggy, Johnny Roquefort, les souterrains de Monopolis, vous me répondez.
C'est une comédie musicale, mais oui.
Starmania. Alors écoutez.
Dodo l'enfant.
Alors ne cherchez pas cette voix. Vous ne la connaissez pas.
Ah
et
bon
vous ne connaissez pas son nom non plus, le nom de ce chanteur, car le secret est total.
Ah oui.
Dans cette toute nouvelle version de Starmania, qui va être présentée dans quelques jours dans le Sud, le mythique opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, ce ne sont que des chanteurs et comédiens inconnus, beaucoup venus du Canada, qui reprennent les rôles tenus en 1979 par Daniel Balavoine, Diane Dufresne ou France Gall. Aujourd'hui en France, nous emmène aux répétitions de Starmania 2022 sur la scène du Palais Nicaïa à Nice, un spectacle copie conforme à la version originale, 44 ans après la sortie du tout premier album. Parmi les initiateurs du projet, le fils de Michel Berger de France Gall, Raphaël Amberger. Il a choisi pour la mise en scène Thomas Joly, celui-là même qui vient d'être choisi pour être le maître de cérémonie des JO de Paris 2024. Et pour les chorégraphies, c'est Sidi Larbi Cherkaoui. Car oui, dans ce Starmania-là, on danse, on virevolte, 12 danseurs en plus des 10 chanteurs sur scène. Une touche de modernité donc, apportée au chef-d'œuvre du tandem Berger-Plamondon pour séduire la nouvelle génération. Mais un détail va plaire aux fans de la première heure, on assiste au retour du grand gourou marabout qu'on ne voyait que dans le show de 1979. Et il nous manquait ce personnage, et bien il est de retour. Starmania 2022, c'est une scène gigantesque, de 20 mètres de profondeur, 42 tonnes de matériel, 500 projecteurs, 120 personnes qui travaillent dans l'ombre. Le spectacle a été annoncé il y a 3 ans, il a été beaucoup reporté, il sera enfin présenté en avant-première à Nice, donc ce week-end.
J'aurais voulu être un artiste.
Starmania, le retour, rendez-vous également à Marseille, Nancy avant Paris dès le 8 novembre pour 3 mois, puis une nouvelle tournée, reportage dans les coulisses du spectacle. Ce spectacle est très attendu dans Aujourd'hui en France.
La renaissance de Starmania.
Exactement. Alexandre, c'est votre tour.
Une question qu'on s'est tous un jour posée et une réponse qui devrait nous rassurer sur Slate.fr. Question, est-il vrai qu'un meurtrier sommeille en chacun de nous? C'est une interrogation qui ressurgit en ce moment avec le lancement, figurez-vous, d'une nouvelle série de la BBC. Ça s'appelle Inside Man. Une série qui est fondée sur l'idée que n'importe qui peut un jour commettre un meurtre. Alors c'est un très vieux débat, hein. On le sait, la part de l'inné, de l'acquis, est-ce qu'il y a un gène du meurtrier? Sauf qu'ici, la question elle va beaucoup plus loin. Est-ce qu'on est tous capables de tuer quelqu'un en fonction des rencontres et des circonstances? Eh bien, cette fois, c'est un éminent criminologue qui vient éteindre l'incendie et battre en brèche cette idée fausse. Sommes-nous tous des meurtriers potentiels? David Wilson, professeur à l'université de Birmingham, livre sa réponse, et sa réponse est non. Si c'était vrai, rappelle-t-il, première évidence, déjà le taux de criminalité serait beaucoup, beaucoup plus élevé. Cette idée, elle est d'autant plus pernicieuse qu'elle est couramment invoquée, rappelle-t-il aussi, par des assassins dans le but de se déculpabiliser et de faire prévaloir une certaine humanité de leurs gestes sur sa monstruosité. Mmh. Le professeur Wilson décortique le raisonnement censé nous berner. Les meurtriers, dit-il, laissent entendre que nous sommes tous à un pas seulement d'agir de la même façon, mais que seuls les assassins donc en ont le courage.
Il reste le courage.
Le courage, alors c'est ça, on est dans la tête du meurtrier, bien sûr. Il reste que l'appétit vorace du public pour les séries criminelles, on l'aura tous remarqué, ne se dément pas. Alors voici peut-être qui réside cette fois dans notre nature humaine. Le criminologue rappelle au passage que les jours de pendaison en place publique étaient des jours fériés et qu'on se pressait pour assister au spectacle. Mais ça, vous allez me dire, c'était bien avant Netflix et les autres plateformes vidéo.
D'accord, on adore voir l'horreur en fait. C'est ça, peut-être c'est pour assouvir quelque chose qui n'est pas...
Écoutez, peut-être.
Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Johan, c'était le pressing et on se retrouve dans un instant avec la partition des Who sur Europe 1.
6h20, votre partition, Omblin, ça se passe en ce moment sur arte.tv. Il s'agit d'un documentaire consacré à l'un des groupes les plus importants de l'histoire du rock, j'ai nommé The Who.
Il s'appelle The Who, le documentaire The Who, pile et face, et il explore les multiples facettes de la bande de Roger Daltrey. Et on peut dire, Alexandre, que les Who entrent dans la légende par la grande porte grâce à l'hymne de la jeunesse british des 60s, My Generation. Avec la voix puissante et le bégaiement du chanteur Roger Daltrey, la guitare de leader Pete Townshend et la batterie désarticulée de Keith Moon.
Alors si on parle des Who aussi ce matin, c'est parce qu'on est le 6 octobre. 35 ans après leur début, c'était le 6 octobre 2000, eh bien ils partent conquérir une nouvelle génération de fans.
Aux États-Unis sur la chaîne CBS, on découvre ce jour-là la nouvelle série Les Experts CSI dans la version originale avec pour la musique du générique Who Are You ?
C'est parfait ça pour fredonner sous la douche, Omblin. C'est la chanson qui donne son nom d'ailleurs à l'album de 78, hein, 1978, et la seule du disque qui soit passée à la postérité.
Évidemment, la fiction sur cette police scientifique à Las Vegas y est pour beaucoup, son instrumentation chargée et chiadée aussi. Mais surtout, Who Are You marque la fin d'une époque. The Who perd son batteur Keith Moon qui succombe à une overdose de médicaments.
La série Les Experts, elle est célèbre aussi pour ses déclinaisons par ville. Hein. Oui. À chaque fois, un morceau différent des Who au générique.
Oui, Las Vegas, Miami, Manhattan. Pour les intrigues à Miami, c'est Won't Get Full Again, un extrait à l'origine du disque Who's Next de 1971, avec l'utilisation des premiers synthétiseurs dans la composition d'une musique non-pop. The Who trace en pointillé le chemin vers le punk, se trouve une place entre les Beatles mélodistes et les Rolling Stones. Lover de Fool, Won't Get Full Again devient un monument avec lequel ils terminent dès lors leur concert.
J'aime bien Lover de Fool. C'est aussi sur l'album Who's Next, hein, Omblin, qu'on entend Baba O'Reilly.
En référence au gourou indien Meher Baba qui avait fait vœu de silence et à Terry Riley, le fondateur de la musique minimaliste répétitive. Baba O'Reilly évoque les adolescents en souffrance, brisés par la drogue, le sort de la jeune génération toujours au cœur des préoccupations du groupe.
Yeah.
Excellence des Who, Baba O'Reilly sur Europe 1 à la télé, le générique des experts Manhattan le 6 octobre 2000, dont on découvre donc l'utilisation de la musique des Who pour illustrer la série CSI et ses déclinaisons à la télé, toujours sur arte.tv. Vous avez jusqu'au 28 février pour découvrir le documentaire de 53 minutes, The Who, pile et face.
Du bon gros rock indémodable. Merci Ombline. 6h25, vous êtes sur Europe 1. Très bon début de journée. Après le journal de 6h30, on va parler emploi dans l'interview écho. Je recevrai Michel Lefebvre, commissaire du salon Paris pour l'emploi qui ouvre ses portes ce matin. 10 000 offres d'emploi disponibles sur le même site. Rendez-vous 6h40.
Et puis avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida. Un record vient d'être battu en matière de rendement de panneaux solaires. A tout de suite.
Europe Matin,
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
Il va falloir baisser le chauffage, réduire la lumière, se laver les mains à l'eau froide. Le gouvernement présente son plan sobriété cet après-midi. Europe 1 vous en dévoile les grandes lignes. Aider un proche malade ou handicapé, vous êtes une dizaine de millions en France à vous consacrer quotidiennement à un membre de votre entourage. Journée nationale des aidants. Aujourd'hui, des associations sont là pour vous donner un coup de main. Et puis, pour lutter contre la criminalité, il faut de l'argent. Vente aux enchères, pas comme les autres à Marseille. On vous raconte tout à la fin de ce journal.
Europe 1.
Journal présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. De l'heure de lancement de la machine à laver à l'extinction des lumières en passant par la température de nos bureaux, jamais un gouvernement n'était autant entré dans l'intimité de nos maisons, de nos entreprises, de nos administrations. Cet après-midi, Elisabeth Borne présente son plan de sobriété pour passer l'hiver sans coupure d'électricité. Objectif, réduire de 10% la consommation d'énergie de la France. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour.
Journaliste au service économie d'Europe 1. Vous avez eu accès aux grandes lignes de ce plan. Baptiste, il prévoit des efforts dans tous les secteurs. Et c'est d'abord l'État qui devrait montrer l'exemple.
Oui, l'État devra être exemplaire. Par exemple, les bureaux publics seront chauffés à 19 degrés maximum. La consommation d'eau chaude y sera rationnée. Des travaux énergétiques devront être menés dans les bâtiments publics. Dans leurs déplacements professionnels, les agents de l'État devront limiter la vitesse de leurs véhicules de fonction à 110 km/h sur l'autoroute. Et leurs voyages en avion devront, eux, être remplacés par le train si une alternative de moins de 4 heures de trajet existe. Enfin, les agents de l'État seront aussi incités à faire du télétravail. Voilà comment l'État compte réduire sa consommation de 10%.
Voilà donc pour l'État. Que prévoit le plan Baptiste pour les entreprises et les établissements qui reçoivent du public ?
Rien de contraignant pour les entreprises. Le gouvernement veut les inciter à suivre le modèle de l'État. Pour les établissements qui reçoivent du public, c'est plus précis. Les commerces sont par exemple invités à réduire leur éclairage. Les hôtels sont invités, eux, à baisser la température des piscines intérieures et extérieures d'un degré. Les domaines de ski vont adapter la vitesse des télésièges à la fréquentation. Et les stades de football ou de rugby devront être éclairés moins longtemps avant et après les rencontres.
Oui, pour nous particuliers, pas d'obligation, mais des conseils tout de même, Baptiste.
Et un slogan, je baisse, j'éteins et je décale. Ce sera la campagne du gouvernement à partir de lundi. Décaler la période de chauffe, par exemple, la débuter plus tard et l'arrêter plus tôt. Éteindre les appareils qui ne sont pas utilisés ou qui restent en veille. On a tous en tête l'exemple des box internet. Et enfin, baisser la température du chauffage à 19 degrés dans les pièces principales, 17 degrés dans les chambres. Et puis baisser la température du chauffe-eau à 55 degrés.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Mesure de sobriété ambitieuse en France et nos voisins européens en font tout autant. Barthélémy Philippe, sur tout le continent, l'heure est à l'économie d'énergie.
Oui, les ministres de l'énergie des 27 se sont mis d'accord pour réduire de 10% leur consommation d'électricité cet hiver, ce qui oblige aussi nos voisins à faire des efforts. L'Italie vient d'adopter un plan de sobriété qui fixe la température maximum à 19 degrés dans les bâtiments publics, comme en France. De son côté, l'Allemagne va bientôt présenter de nouvelles mesures, mais l'utilisation d'eau chaude sanitaire dans les bureaux est déjà restreinte, ce que prévoit aussi le plan tricolore. comme Paris, Berlin réduit drastiquement l'illumination de ses monuments publics. En Espagne, les autorités ont imposé des règles strictes dès le mois d'août. Les vitrines des commerces doivent être plongées dans le noir à 22h, alors que la France se contente d'imposer l'arrêt des enseignes lumineuses dès la fermeture. Enfin, la petite Lituanie qui a arrêté d'importer le gaz russe est très ambitieuse. Quand Paris veut réduire sa consommation d'énergie de 40% d'ici 2050, Vilnius entend faire la moitié du chemin, soit 20% d'énergie en moins, en seulement 2 ans.
Barthélémy Philippe.
Les pays d'Europe se réunissent aujourd'hui à Prague, en République tchèque, pour la première réunion de la CPE, la Communauté politique européenne.
Oui, nouvelle entité proposée par Emmanuel Macron lorsque la France était à la tête de l'Union européenne. Elle réunit 43 chefs d'État et de gouvernement, une sorte d'UE élargie pour montrer que l'Europe fait bloc face à la Russie. Y participent entre autres Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, Recep Tayyip Erdogan, son homologue turc, et la première ministre britannique. Liz Truss.
Européen 6h34, mettre sa vie entre parenthèses, s'oublier pour accompagner un proche malade, les aidants familiaux ont leur journée nationale, c'est aujourd'hui.
Oui, entre 8 et 11 millions de pères, mères, frères, sœurs ou époux totalement dévoués à leurs proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Un quotidien épuisant que tentent de soulager certaines associations en prenant le relais pour quelques heures, pour quelques jours. Exemple à Malmerspach dans le Haut-Rhin, le reportage de la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin.
Une grande et belle maison, plusieurs petits chalets individuels en pleine nature au pied des Vosges. C'est ici, à l'association Au fil de la vie, que Marie-Paul dépose régulièrement Manon, sa fille de 25 ans, atteinte d'un handicap mental, une façon d'avoir un peu de répit.
Elle vient 4 jours et demi par mois, et puis moi, pendant ce temps-là, je vais voir les amis que je ne peux pas voir. Je me permets du cinéma, je me permets un restaurant avec mon mari. Et d'ailleurs, ça nous fait tout drôle parce que quand on se retrouve à table le soir, il y a un gros manque quand même. Mais après, je sais qu'elle est très bien, elle m'appelle, elle a le sourire. Elle s'est fait des amis et elle dit toujours « La maison Émilie, c'est ma vie ».
Comme tous les aidants, Marie-Paul a droit à 90 jours par an de solutions d'hébergement temporaire. Le problème, explique Laura Garcia, responsable de l'accompagnement, c'est qu'il manque des places.
On a 11 places d'accueil temporaire. Du coup, ici, il vaut mieux anticiper plutôt un an à l'avance. Pour l'instant, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes qu'on reçoit.
Et puis surtout, peu d'aidants connaissent l'existence de ces structures ou leurs droits. C'est pourquoi l'association vient de créer une plateforme d'accompagnement pour les conseiller et les épauler. Malmerspach, Mélina Fachin, Europe 1.
À Marseille, maintenant, 1 an de prison ferme a été requis contre la conductrice du bus de l'accident de Miaz qui avait fait 6 morts et 17 blessés en 2017.
Le parquet réclame aussi 4 ans de prison avec sursis assorti d'une obligation de soins, d'une annulation des permis de conduire de Nadine Oliveira avec interdiction de les repasser pendant 5 ans. La décision du tribunal sera prononcée le 18 novembre.
Et puis à Paris, après le démantèlement hier matin d'un campement de consommateurs de crack dans le 19e arrondissement, 800 policiers sont toujours mobilisés.
Mission, s'assurer que les craqueux ne se réinstallent pas dans le secteur. Bilan de l'opération hier, 52 sans-papiers placés en centre de rétention administratif, 63 personnes mises à l'abri, 39 interpellations et 5 toxicomanes particulièrement dépendants hospitalisés.
L'argent de la drogue, les trésors des criminels, le butin de leur vol, que deviennent ces richesses illégales saisies par la justice ?
Eh bien, la plupart vont renflouer les caisses de l'État. Mais pour ça, il faut les vendre aux enchères. Hier à Marseille avait lieu l'une de ces ventes très prisées au Palais du Pharo. Reportage Nina Pavan.
Pièces en or, sacs de luxe, Ferrari, les saisies de justice font tourner la tête des acheteurs. Sylvie a repéré quelques bijoux en or dans le catalogue. Certains appartenaient à des escrocs ou même à des narcotrafiquants. Vous, en tant qu'acheteuse, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça ne me touche pas, ça. J'achète et on verra après.
Alors, est-ce que presque ça ne leur rajouterait pas un charme ? Ça fait une petite histoire à raconter, peut-être ?
C'est sûrement une histoire, oui, déjà là, pour moi.
54 000 pour le jeune homme.
Alexandre, lui, craque et s'offre une Rolex 54. À 54 000 euros. Première enchère pour ce jeune trentenaire.
C'est un marché qui ne perd pas du tout de valeur, donc en termes de placement, voilà, c'est une valeur refuge.
Revendre des objets saisis à des délinquants condamnés, c'est renflouer les caisses de l'État, financer la lutte contre la criminalité et même parfois indemniser les victimes de fraude, selon Nicolas Bessonne, représentant de l'État en charge des ventes.
Tout ça, c'est la concrétisation du travail des policiers, des juges d'instruction, des procureurs de la République sur le terrain. Partie de ces sommes leur reviennent pour améliorer leur quotidien et leurs conditions de travail.
Un dernier coup coups de marteau et pour l'État, ce sont plus de 800 000 euros récoltés en une seule journée. Marseille, Nina Pavan, Europe 1.
Comme quoi le crime ne paie pas, sauf dans les salles de vente.
6h38, merci Fanny Marceau, très bon réveil à tous. Une très belle opportunité, tiens, si vous recherchez du travail. Le salon Paris pour l'emploi, il ouvre ses portes ce matin. On sera dans un instant avec Michel Lefebvre, visite guidée et bon conseil du commissaire du salon. A tout de suite.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
La Caisse d'Épargne vous présente l'interview éco. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Coup d'envoi ce matin du salon Paris pour l'emploi sur la place de la Concorde à Paris. Il est ouvert aujourd'hui et demain de 10h à 18h. Votre invité Alexandre est le commissaire du salon Paris pour l'emploi 2022, Michel Lefebvre.
Bonjour Michel Lefebvre.
Bonjour.
Première édition post-Covid hein, de ce salon Paris pour l'emploi qui fait donc son grand retour. Combien d'entreprises on peut venir rencontrer ?
Alors il y aura près de 400 entreprises qui seront présentes ce jour. Et donc on va faire en sorte que les candidats et candidates qui vont être présents place de la Concorde puissent avoir le meilleur accueil possible. Et c'est pour ça que vous voyez, on s'est levé tôt aujourd'hui,
oui.
on est combatif. Alors stressé, évidemment, je suis aussi stressé de passer à l'antenne que les candidats qui vont venir, puisque finalement ils vont devoir convaincre en quelques minutes les employeurs présents, et ça c'est pas facile.
Alors si on recherche du travail, il y a quand même de bonnes chances qu'on fasse pas le déplacement pour rien. Hein. C'est combien ? C'est près de 10 000 offres d'emploi qui sont disponibles.
Alors, en réalité, c'est beaucoup plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 350 métiers qui sont proposés sur le salon. Et 350 métiers, ça fait beaucoup de possibilités de trouver le métier que l'on recherche, en fait. Et donc, c'est cette multiplicité de l'offre qu'on va trouver sur le salon aujourd'hui. Voilà. Donc, 10 000 offres, c'est une chose, mais par exemple, l'aéronautique recrute près de 15 000 offres qui vont être proposées. Les différentes armées sont là, donc elles recrutent également énormément. Donc, il y a vraiment beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de métiers proposés.
Vous avez effectivement cette année un large espace, vous en parliez, hein, Michel Lefebvre, baptisé l'aéro-recrute. C'est donc le secteur aéronautique et spatial. Il y a une grande variété de profils qui sont recherchés dans ce secteur.
Alors effectivement, hein, ce sont des candidats qui sont recherchés, sont de tous horizons, du CAP à Bac plus 8. C'est aussi bien des jeunes diplômés que des personnes expérimentées ou en reconversion. Et donc, il y a effectivement une panoplie d'offres qui sont proposées par secteur et notamment on a des grandes entreprises qui sont présentes comme par exemple Air France, comme par exemple Airbus qui va être là sur le salon.
C'est important de le préciser Michel Lefebvre, quel que soit son âge, son niveau d'études ou ses qualifications, on a ses chances si l'on vient au salon de Paris pour l'emploi et on est assuré hein, quasiment d'avoir un entretien d'embauche sur place. Hein.
Alors effectivement c'est un pré-entretien hein, qu'on va avoir.
Un pré-entretien
ici,
disons, bien sûr.
Voilà. L'idée, c'est de repartir avec un rendez-vous en quittant Paris pour l'emploi. Donc, c'est vraiment un salon qui est ouvert à tous, hein, quel que soit l'âge, quelle que soit l'expérience. Et ce qui est important, c'est toujours se positionner sur une offre d'emploi précise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir juste pour chercher du travail.
Oui,
il faut chercher une offre précise. Exactement.
Oui, oui.
Et surtout, on identifie clairement le métier qu'on est venu chercher. Donc, si on est venu chercher un poste de commercial, on s'arrête sur une entreprise qui propose ce type d'offre d'emploi. Sinon, on perd son temps. On n'est pas là pour donner un CV, on est là pour échanger avec les employeurs présents.
Il y a des secteurs en particulier qui recrutent davantage en ce moment. On a beaucoup entendu parler au cours des derniers mois du secteur de la restauration, naturellement, mais pas seulement.
Alors, en fait, toutes les entreprises actuellement recrutent, on voit bien que le chômage a baissé. Et donc, en fait, tous les secteurs sont représentés à Paris pour l'emploi. Donc ça, j'allais dire, il y en aura pour tous les goûts. Tout le monde recrute à l'heure actuelle. Donc, on parle de l'hôtellerie-restauration, mais l'industrie est là. On voit bien que certains métiers sont plus recherchés que d'autres. Hein. Par exemple, les métiers de comptables. Il y a beaucoup d'offres de comptables qui vont être proposées sur le salon, des postes de commerciaux, des postes dans l'informatique. Mais donc, vous voyez, donc c'est vraiment un salon ouvert à tous.
Une façon de se préparer, hein, parce que c'est important, vous le disiez, la préparation, on ne vient pas la fleur au fusil. On peut aller sur le site oui-emploi.fr et on dépose son CV, on postule en quelques clics, hein, simplement.
Alors, on peut déposer son CV, mais l'idée, c'est quand même de venir place de la Concorde, c'est de pouvoir échanger en direct.
C'est aujourd'hui
avec
et demain, bien sûr, oui.
Et surtout, j'allais dire que ce qui est important, c'est d'avoir toujours défini son projet professionnel avant de venir sur le salon, d'où la préparation en ligne pour ne pas perdre de temps. Vous savez, comme on est sur un chapiteau qui fait 5000 mètres carrés. Donc, en réalité, on peut vite être perdu. Donc, quand on va sur le site 8-emploi, eh ben, on a le temps d'imprimer le plan, de choisir les entreprises qui correspondent à ses besoins et de venir sans perdre de temps et de ne pas être noyé sur la masse des employeurs présents. Ce 400 employeurs, c'est-à-dire 400 stands différents, c'est énorme.
On pourrait avoir peur de se perdre, en effet, mais tout est prévu. Hein. Vous nous le dites, vous avez même des conseillers sur place pour guider les visiteurs et qui aident d'ailleurs à mettre à jour le CV. Hein.
Alors évidemment, il y a toutes les structures type Pôle emploi, la PEC qui vont être présentes, mais on a également nos quartiers en des talents qui vont accueillir les personnes présentes. Donc on a les missions locales, on a le CIDJ qui est présent, donc on a fait en sorte de pouvoir accueillir le mieux possible les personnes qui auront une question sur leur projet professionnel.
On peut venir trouver un job, bien sûr, Michel Lefebvre, mais aussi une formation. Il y a sur le salon plusieurs organismes de formation qui sont représentés.
Alors évidemment, il y a les Greta, il y a l'AFPA qui sont présentes, mais il y a les organismes de formation, vous savez, pour la formation continue. Hein. Lorsqu'on a un métier et qu'on veut en changer, qu'on veut découvrir un autre métier, eh ben, par exemple, Transition Pro sera présent sur le salon. Donc, vous voyez, il y a l'aspect formation d'un côté et puis il y a effectivement l'aspect emploi de l'autre.
Vos meilleurs conseils, allez, Michel Lefebvre, pour mettre toutes les chances de son côté, pour bien préparer sa vie, on en a déjà parlé un petit peu, mais pour voilà, mettre les meilleures chances de son côté pour trouver un emploi à ce salon.
Alors, je dirais son sourire. Il faut être souriant. Il faut montrer à l'employeur que l'on a envie de travailler au sein de cette entreprise. D'où l'importance de chercher un petit peu ce que fait l'employeur, quels sont ses produits. Et quand on sait exactement ce que l'employeur fait, ben forcément, on est dans de meilleures conditions. Et puis, je le redis, ce qui est important, c'est de décrocher un rendez-vous à la suite de ce salon. Donc, l'idée, c'est de se convaincre, de déposer son CV. Avoir son CV, c'est quelque chose d'important. Et puis, de repartir avec une carte de visite à un rendez-vous. Et quand on a atteint cet objectif, on peut repartir serein de Paris pour l'emploi.
400 entreprises représentées, une offre sur trois pourvues, je lisais, Michel Lefebvre, commissaire du Salon Paris pour l'Emploi 2022. C'est donc aujourd'hui et demain, place de la Concorde à Paris de 10h à 18h. Renseignements également en ligne sur oui-emploi.fr. Merci Michel Lefebvre.
Merci, à bientôt.
C'était l'Interview Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Europe 1, il est 6h48.
Europe Matin.
Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
L'innovation avec Anicet Bida, bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Bonjour Anicet.
Et bonjour à tous.
C'est un nouveau record qui vient d'être battu en matière de rendement des panneaux photovoltaïques.
Oui, et c'est incroyable la vitesse à laquelle on arrive aujourd'hui à augmenter les performances des panneaux solaires. Il y a 5 ans, on obtenait des rendements d'à peine 13-14%, donc il n'y avait que 14% des rayons solaires qui étaient convertis en électricité. Il y a 2 ans, on est monté à 25%. Et aujourd'hui, un nouveau record, une équipe de scientifiques des Pays-Bas vient de dépasser la barrière magique des 30%. Alors pourquoi magique ? Eh bien parce qu'on est très très proche du rendement théorique maximal d'un panneau solaire. Et l'intérêt de toutes ces optimisations, c'est qu'elles font chuter les prix du solaire, puisqu'on arrive à générer plus d'électricité sur la même surface. Et pour vous donner une idée, en 10 ans, les coûts se sont écroulés de 82%. C'est la baisse la plus importante parmi l'ensemble des énergies renouvelables.
Alors si je comprends pas ce que vous dites, si on approche du maximum théorique, ça veut dire qu'on va commencer à stagner, qu'il y aura moins de progrès ?
Eh bien pas forcément, parce que pour atteindre ce fameux maximum théorique, les scientifiques ont évidemment transformé la lumière visible en électricité, ça c'est classique, mais ils ont aussi transformé les rayonnements invisibles, les ultraviolets notamment. Et c'est possible grâce à un nouveau matériau qui est très prometteur, qui s'appelle la perovskite. Et c'est une sorte de cristal. Et avec ce cristal, on pourrait repousser le rendement théorique maximal à plus de 60%, donc 2 fois plus haut que la limite actuelle. Donc potentiellement, le coût de l'énergie solaire pourrait encore être divisé par 2 dans les prochaines années.
Très bien, Anicet, naturellement, ça ne change rien au fait que ça ne fonctionnera évidemment toujours pas la nuit, ni les jours de mauvais temps.
Mais c'est vrai, vous avez raison. Hein. Même si on bat record sur record en matière de rendement, le solaire a besoin de quoi ? Il a besoin de soleil. Ça reste la plus intermittente des énergies renouvelables. Alors certes, on travaille sur des panneaux qui pourraient fonctionner la nuit, c'est-à-dire au lieu de convertir la lumière en électricité, ce sont les flux de chaleur, la chaleur entre la nuit et le jour qui sont transformés en électricité. Là encore, c'est très prometteur, mais la technique a encore du mal à sortir des laboratoires. Donc finalement, l'enjeu reste le même, arriver à stocker l'énergie de façon simple et bon marché, sinon on aura beaucoup de mal à profiter de toutes les avancées scientifiques.
Merci beaucoup Anicet Bida, c'était l'innovation.
Europe Matin.
6h50, bon réveil avec Europe 1, le journal permanent Alban Leprince.
Moins chauffé, moins éclairé, incité au télétravail et au covoiturage, le gouvernement présente en début d'après-midi son plan de sobriété énergétique. Dans ce contexte, un décret paru ce matin au journal officiel généralise l'extinction des lumières des magasins et des publicités la nuit. A noter aussi, Bercy demande aux énergéticiens de faire preuve de solidarité avec les entreprises qui ne sont pas concernées par le bouclier tarifaire et promet d'apporter sa garantie pour faciliter la signature de contrats. L'ambassade de France au Mexique le confirme, un couple de Français est porté disparu depuis le 12 septembre. Il séjournait dans un centre spirituel à San Cristobal de las Casas. Et puis déjà 1 300 000 billets de train vendus pour les fêtes de fin d'année selon la SNCF. À l'ouverture des réservations hier matin, il s'est vendu l'équivalent de 3 TGV par minute.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe Matin.
Votre fenêtre sur le monde, c'est la revue de presse internationale. Nous sommes au Japon ce matin avec vous, Bernard Delattre. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une des journaux japonais ?
Les failles de J-Alert. C'est le nom du dispositif que le gouvernement utilise pour prévenir la population en cas de crise majeure. Un tsunami, un attentat ou l'arrivée imminente d'un missile ennemi. Sauf que mardi, J-Alert a connu de gros ratés. Des habitants des régions qui ont été survolés par le missile nord-coréen n'ont pas reçu le SMS qui aurait dû les alerter du danger. Dans les rues de certaines villes, les haut-parleurs sont restés muets. En revanche, les sirènes ont hurlé à Tokyo, qui n'a jamais été menacée par ce missile. Le tabloïd Gendai dénonce une pantalonnade. Ces dysfonctionnements sont vraiment inquiétants. S'alarme le quotidien financier Nikkei. Il risque un jour de nous coûter la vie, a-t-on pu lire sur Twitter. Pour le journal nationaliste Sankei, les autorités font preuve de légèreté. Or, elles n'ont pas le droit à l'erreur, explique le Yomiuri. Un missile nord-coréen ne met que 10 minutes pour arriver au Japon.
Partons maintenant pour les États-Unis avec vous, Alexis Guilleux, à la une de la presse américaine.
Eh bien, c'est l'accord financier trouvé entre Alec Baldwin et la famille d'Alina Hutchins, la directrice de la photographie du film Rust, tuée l'an dernier sur le tournage de ce western, rappelle le Wall Street Journal. L'accord concerne l'acteur et l'équipe de production, alors que la famille avait lancé des poursuites pour homicide involontaire. Alec Baldwin et ses collègues étaient accusés d'imprudence, souligne le New York Times. La volonté de réduire les coûts et le non-respect des mesures de sécurité standard ont mis en danger l'équipe du film. D'ailleurs, l'enquête de police se poursuit, pointe USA Today, alors qu'Alec Baldwin a pris la parole à plusieurs reprises ces derniers mois dans les médias pour insister sur le fait qu'il n'était pas responsable de la mort de Hutchins, explique le Washington Post. « Nous pensons tous que la mort d'Alina était un terrible accident », écrit son veuf Matthew Hutchins, désormais producteur exécutif de ce film Rust, dont le tournage doit reprendre en janvier 2023. Pour l'heure, le montant de l'accord reste confidentiel.
Dernière étape ce jeudi en Irlande avec notre correspondante Laura Taouchanoff. Laura, les gros titres de la presse irlandaise.
Eh bien, l'Irlande n'a toujours pas les moyens de protéger ses câbles et ses pipelines sous-marins. C'est ce qu'on lit en une de l'Examiner. La polémique enfle depuis ces trois fuites très suspectes sur les gazoducs Nord Stream qui relient la Russie à l'Europe. Un expert interviewé par l'Irish Times est catégorique. Les navires et les avions de nos forces de défense n'ont aucune capacité de détection sous-marine. Ils ne peuvent donc pas identifier une menace, encore moins la contrer. Paradoxalement, l'île a une position stratégique dans le monde, comme le rappelle The Independent. Les trois quart des câbles de l'hémisphère nord passe à travers ou à proximité des eaux irlandaises. L'espace maritime du pays fait 12 fois sa superficie terrestre. Alors avec la menace russe, elle va être obligée de créer une vraie flotte de défense sous-marine.
Merci Laura Taouchanoff, merci à nos correspondants. 6h54 sur Europe 1. Dans un instant, la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.
Europe Matin.
Il est 6h56, passez une très belle matinée à l'écoute d'Europe 1.
Et voici Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Ambline.